Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Premier jour de mise en œuvre du pass vaccinal. Comment cela s'est-il passé pour les restaurateurs qui sont censés vérifier l'identité de leurs clients? L'ont-ils fait ou pas? On leur pose la question ce soir. On verra que les choses ne sont pas simples pour nombre d'entre eux. On parlera aussi d'insécurité avec cette nouvelle agression d'un chauffeur de bus à Paris. Un conducteur frappé par un automobiliste en furie qui a d'abord démoli la vitre du bus à coups de poing avant de rentrer carrément dans la cabine pour molester le chauffeur alors que plusieurs personnes tentaient de s'interposer. Une scène filmée, largement diffusée sur les réseaux sociaux. Quelle réponse pénale à cette violence? On verra que l'agresseur a été laissé en liberté avec une convocation ultérieure à comparaître devant la justice. Est-ce que c'est cela la réponse à la demande de justice rapide et efficace des Français? On en débat ce soir dans Punchline. On verra aussi que le bilan sécurité du quinquennat qui vient de s'écouler est jugé très sévèrement par les Français. 69% d'entre eux estiment le bilan négatif selon un sondage IFOP pour le JDD. Que le maintien de l'ordre s'est dégradé, que la lutte contre la délinquance et la criminalité ont régressé, toujours selon les Français. La sécurité angle mort de la présidence Macron, c'est au menu de Punchline. Le président Macron, qui est justement en visite dans la Creuse pour évoquer là les questions de ruralité, il a soigneusement éludé la question de sa candidature. « Chaque chose en son temps », a-t-il répondu à un jeune élève pertinent qui lui posait la question. La campagne, en revanche, bat son plein à droite, où les ralliements fusent en tous sens. À qui le tour, après le transfert de Gilbert Collard chez Éric Zemmour, l'heure est au débauchage, tous azimuts pour le candidat Reconquête, qui a aussi écrit une longue tribune dans le Figaro pour dénoncer l'islamisation de la France. L'Afghanistan à 2 heures de Paris, dit-il, une évocation du reportage de Zone Interdite hier soir consacré au séparatisme dans la ville de Roubaix. On y revient ce soir avec mes invités. Nous sommes avec Jean-Claude Dacier, consultant CNews. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Julien Drey nous a rejoint. Bonsoir.
Bonsoir.
Membre du Conseil national du Parti Socialiste. Maître Gunladel est là. Bonsoir.
Madame Ferrari.
Avocat. Et Jean-Christophe Couvi. Bonsoir. Secrétaire national d'Unité SGP, syndicat policier.
Bonsoir.
Merci d'être là. On va tout de suite commencer par le pass vaccinal. On rejoint notre équipe Valentine Leboeuf et Margot Sève avec le bistrot Flaubert et Stéphane Manigold, un restaurateur. Comment cela s'est passé pour cette première journée?
Bonjour Laurence, alors dans ce bistrot parisien, rien n'a changé par rapport à la semaine dernière. Les clients présentent leur passe sanitaire à l'entrée qui s'est automatiquement converti aujourd'hui en passe vaccinal. Alors la seule chose qui change, c'est que les restaurateurs peuvent désormais contrôler l'identité des personnes qui viennent manger. Je suis, vous l'avez dit, avec Stéphane Manigold, propriétaire de ce bistrot. Alors justement, bonjour Stéphane.
Bonsoir Valentine.
Première question, est-ce que vous avez contrôlé l'identité des clients aujourd'hui?
Bonsoir Laurence Ferrari, bonsoir tout le monde. Non, je n'ai pas demandé à mes collaborateurs de contrôler l'identité de mes clients, de faire ce rapprochement d'identité en cas de doute avéré, pour la simple et bonne raison, c'est que moi-même je suis victime de menaces de mort et il est de ma responsabilité de chef d'entreprise d'assurer la protection de mes salariés. On le voit bien, nos élus, les politiques, les députés se font régulièrement menacés, on est passé du stade de la menace aux actes. Ce n'est pas notre rôle, vous voyez, je suis très légitimiste, ce n'est pas notre rôle de chasser cette frange de la population qui s'est franchement radicalisée. Moi, mon rôle, c'est d'assurer la sécurité de mes salariés dans un premier temps, et évidemment de l'ensemble de mes clients. Qu'est-ce qu'on ferait demain si un espèce d'excité extrémiste venait pour nous provoquer? Nous ne sommes ni formés pour ça, ce n'est pas notre mission, c'est une mission régalienne qui appartient à l'État, et je suis en phase avec nos fonctionnaires de police du reste sur ce sujet.
Merci beaucoup Stéphane Manigold. Vous l'avez donc entendu, pas de contrôle d'identité de la part des restaurateurs ici, mais en cas de fraude et de contrôle par la police, le client risque une amende de 1 000 euros minimum.
Merci beaucoup Valentine Leboeuf et Margot Sève. On fait une petite pause, on débat de tout ça tout de suite dans Punchline.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et il est pile 18h. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, bienvenue à tous et à toutes. On vient d'entendre Maître Gunladel des propos assez stupéfiants de Stéphane Manigold qui dit qu'il y a des menaces de mort contre les restaurateurs qui voudraient demander le pass vaccinal. La violence, elle augmente, elle est exponentielle, que ce soit contre les élus. On a eu encore un élu agressé à Perpignan. Bruxelles, ça a dégénéré lors d'une manifestation. C'est un crescendo.
Ah mais Monsieur Manigold, je crois, fait une exacte analyse de la montée de la violence, de l'insécurité. Et l'un des vecteurs les plus importants, c'est ces histoires de passes vaccinaux, de vaccins, etc. Et je comprends parfaitement sa réaction. Il n'est pas flic, hein. c'est pas son métier. Mmh. Il doit vérifier, puisque c'est la loi, il doit vérifier le pass vaccinal.
Mais pas plus.
Mais il n'a pas. Et puis le critère d'un doute sérieux, c'est plus que subjectif. Et je comprends qu'il n'a pas envie d'avoir une attitude suicidaire, parce que ça peut effectivement mal tourner. Je comprends parfaitement ce qu'il dit.
Julien Drey, votre réaction. On va réécouter dans un instant Stéphane Manigault.
Il y a deux choses différentes. Je veux dire, le pass vaccinal rentre en activité. Je pense que la plupart des restaurateurs ne vont pas aller faire des contrôles d'identité. Ils auront raison, parce que c'est évidemment une source de tension. Alors après, s'il y a un client qui est un peu trop excité, ben, ils appelleront la police et ils géreront ça avec elle. Et elle saura, elle, le gérer comme il le faut. Après, sur la violence, c'est un phénomène qui, s'étend, c'est-à-dire reprend sa dynamique, parce que ça s'était stoppé pendant le Covid, et ça reprend sa dynamique, les chiffres le montrent, et ça veut dire que nos dispositifs ne sont pas encore opérationnels comme il le faudrait, ça c'est clair.
Monsieur Couvi, vous qui êtes policier, c'est plutôt votre travail à vous de contrôler l'identité, a priori c'est pas les restaurateurs.
Ouais, moi je fais la différence entre contrôle d'identité et vérification d'identité, c'est pas pareil. Mais contrôle d'identité, effectivement, c'est du régalien, dans une démocratie il y a des textes de loi. Donc le policier doit contrôler l'identité, vérification d'identité, c'est vraiment si on a un doute. Mais encore une fois, je pense qu'il faut quand même laisser ça aux forces de l'ordre. Voilà, c'est un pouvoir qui nous appartient. Et sur la violence, on voit bien qu'actuellement, il n'y a plus de dialogue, en fait. Et on se rend compte, d'ailleurs, qu'il y a une disparition des corps intermédiaires. On l'a vu sur la crise des Gilets jaunes, après on l'a vu sur le Covid. Et on se rend compte que, justement, les citoyens ne trouvent plus de personnes qui les représentent pour parler, justement, aux représentants de l'État. Donc, en fait, ils prennent eux-mêmes les affaires en main. Et on voit que ça devient la chienlit.
Stéphane Manigault, vous êtes toujours avec nous. Vous nous avez dit que vous avez reçu des menaces de mort et donc vous n'alliez pas contrôler l'identité de vos clients. C'est comme ça que vont faire aussi vos collègues restaurateurs. C'est un peu général comme sentiment.
Oui, Laurence Ferrari, je tiens à préciser que nos amis de la police ont retrouvé l'auteur de ces menaces et il sera jugé en comparution, jugé coupable fin mars. Donc ça, je remercie nos fonctionnaires de police puisqu'il n'existe pas d'anonymat dans ce pays. Bah, il a avoué les faits, hein, donc il sera jugé coupable, en comparution jugé coupable, voilà, c'est le terme exact. Mais pour ce qui est de la sécurité de mes salariés, je le disais tout à l'heure, cher Laurence, eh bien c'est de ma responsabilité de chef d'entreprise, c'est une obligation que nous tirons dans le code du travail, et c'est de notre responsabilité d'assurer la sécurité. Il ne s'agit pas de créer des territoires d'insécurité nouveaux, ce qui redonnerait du travail à nos fonctionnaires de police, et Dieu sait que sur le territoire, il y a suffisamment de territoires où l'insécurité règne. Nous sommes des territoires de sécurité, le déplaçons pas l'hystérisation d'un certain nombre et d'une toute petite partie de la population qui s'est franchement radicalisée sur ce sujet. Ce n'est pas à nous de faire face à ces gens-là. Et je remercie le fonctionnaire de police qui est sur votre plateau, qui confirme que c'est une mission régalienne. Vous savez, je suis très légitimiste. Les arrêts maladie, j'en parlais sur votre plateau, 500 000 par jour, eh bien, c'est aux médecins maintenant de prendre le relais et d'arrêter ces personnes qui sont en arrêt maladie et pas simplement de se mettre un coton-tige dans le nez et dire « je suis positif et je m'arrête de travailler ». Vous voyez, le légitimiste doit reprendre cité dans cette démocratie.
Jean-Claude Dacier, votre réaction à la fois aux menaces de mort et à ce que dit M. Manigault.
Les menaces de mort, bon, comme celles-ci, comme toutes celles dont nous parlons déjà depuis longtemps, sont évidemment inacceptables. La police fait pas mal son boulot et je pense la réponse pénale, on en parlera peut-être tout à l'heure à propos de l'agression du bus. Ce qui est sans doute une vérité économique très préoccupante, c'est que pour les restaurateurs, en tout cas, j'avais un de mes amis qui possède un certain nombre de restaurants en Bretagne. Je lui parlais ce matin, il me dit que le mois était calamiteux et catastrophique, moins à cause du pass vaccinal qui vient seulement ce matin d'entrer en vigueur, que la trouille. Les gens, quand ils voient 300, ils nous entendent, 300, 400 000 contaminés, même si ce sont des contaminés asymptomatiques ou des gens qui sont... Il y en a aussi qui passent quelques jours au lit mal foutus. Les gens sont inquiets quand même et globalement ne sont pas amenés à aller dîner dans les restaurants, contrôle de police ou pas contrôle de police. Ils ont la trouille. Donc c'est une situation qui est préoccupante. Et puis on va en reparler, je pense. Il y a une radicalisation du discours, il y a une agression en tout genre. C'est inacceptable. Et il n'y a pas que le discours.
On va voir ce qui s'est passé à Bruxelles. Un dernier mot, Stéphane Manigault, avant de vous libérer. Vous pensez que tant qu'il y aura ce pass vaccinal, la situation va être compliquée pour les restaurateurs. Ça peut durer jusqu'à février. voire au-delà.
Écoutez, ça c'est une décision politique. Je ne pense pas que ce soit une décision sanitaire. En tout cas, je vous ai donné ma position et elle est partagée par une large majorité de mes confrères. Et Jean-Claude Dacier, je le remercie, parlait de son ami restaurateur breton. Notre préoccupation, c'est l'absence de trésorerie. Je rappelle que nous avons monté des entreprises avec un numéro de SIRET à but lucratif. C'est le principe même d'une entreprise. Nous n'avons pas monté des associations loi 1901 qui, elles, sont subventionnées. Nous, eh bien, pour qu'on puisse payer nos dettes, faire face à nos charges, payer nos salariés, eh bien, il faut que les clients reviennent. Le télétravail est un coup de massue terrible pour la fréquentation de nos établissements. L'absentéisme lié à ces tests positifs de gens asymptomatiques qu'on arrête sans discernement, eh bien, c'est un vrai fléau aujourd'hui dans la société. Vous m'avez déjà donné, cher Laurence, l'occasion d'en parler et de pousser un coup de gueule. Ça suffit. Il faut que le bon sens revienne, que l'économie reparte, parce que sans économie, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'école. C'est bien l'économie qui participe à la solidarité et à l'ensemble des missions régaliennes et des services publics que nous apprécions tant. Merci. Donc il est temps que ça s'arrête, il est temps qu'on reprenne le bon sens, ma chère
Merci
Laurence.
Merci Stéphane Manigold pour ce cri du cœur dans Punchline. Un mot de ce qui s'est passé à Bruxelles, Maître Golnadel, avec des affrontements violents entre la police et les manifestants anti-pass. Sur, je crois, 239 personnes interpellées, il y avait quand même quelques Français qui sont toujours en garde à vue. Cette colère-là, cette violence tout à fait inadmissible, elle peut s'étendre, vous croyez, au fur et à mesure que la tension sur le front de l'épidémie va décroître?
Je ne sais pas. Je constate simplement, je ne vois pas pourquoi la violence n'irait pas aussi jusqu'à Bruxelles. Je constate que peut-être emmerder le monde rend mauvais. Hein.
Oui, c'est de la provoque.
Ah ben, je ne suis pas sûr que ce soit une excellente thérapie pour guérir les encolérés jusqu'à Bruxelles. Donc, je constate effectivement que les anti-vaccins, une partie, parce que encore une fois, moi, je n'aime pas mêler les anti-vax, dont certains sont complotistes, et avec des gens qui, de manière irrationnelle, en tous les cas, à mon avis, erronée, mais c'est leur droit, refuse de se vacciner. Je ne mélange pas les deux, raison pourquoi je n'aime pas qu'on les emmerde, ceux-là.
Alors, sur le front de la sécurité, M. Couvi, vous pensez qu'on peut arriver à nouveau à des manifs violents? Pour l'instant, tout se passe bien dans notre pays, sur le front de ces manifs-là.
Oui, on voit bien que pour l'instant, en même temps, on n'est pas dupes. Hein, quand je vois ce qui s'est passé à Nantes le week-end dernier avec les antifas, là, on voit ce qui se passe à Bruxelles, on sait qu'il y a un noyau, on sait qu'il y a un terreau, les antifas, l'extrême gauche et aussi l'extrême droite. Et on voit qu'ils essaient justement d'amalgamer autour d'eux des citoyens lambda qui sont prêts à aller dans la rue et encore une fois de remettre, de la violence dans la rue. Moi, ce que je vois à Bruxelles, le maintien de l'ordre en France est souvent critiqué. Bon, encore une fois, je rends hommage à mes collègues CRS et gendarmes mobiles parce qu'on a quand même un savoir-faire en France malgré les critiques qu'on a subies. Les gilets jaunes, c'est 18 mois de. Ouais, mais 18 mois de manifestation. Regardez, là, une manifestation, les policiers belges, ils sont à moitié débordés déjà. C'est ce qu'ils appellent la désescalade. Nous, on a tenu 18 mois. Et il n'y a pas eu un mort. Enfin, voilà, c'est là-dessus, je veux dire, les policiers, nous, on nous critique, mais n'empêche qu'on a un savoir-faire. Il y a toujours des critiques, il y a toujours des améliorations à faire. Mais voilà, on tient la baraque, quoi.
Des fois, ça se passe.
Moi, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Bon, c'est leur opinion. Ils l'assument, ils n'en payent pas beaucoup les conséquences, parce que c'est plutôt les vaccinés qui sont obligés de porter les conséquences. Puis après, il y a un phénomène que maintenant on commence à connaître et à maîtriser, qui s'est installé dans tous les conflits. Il y a un certain nombre de noyaux durs, d'extrême droite, ou d'extrême gauche radicale, parce que je distingue l'extrême gauche traditionnelle et l'extrême gauche radicale, qui noyautent ces manifestations et qui veulent aller à la baston. Et qui veulent aller à la casse et qui instrumentalisent n'importe quelle lutte. C'est d'ailleurs un problème pour tous ceux qui sont qui manifestent. Les syndicats eux-mêmes le reconnaissent. Et le problème qu'on a, c'est comment on arrive à cerner ces groupes qui sont des groupes qui sont pas très qui existent à l'occasion. C'est-à-dire, c'est pas des groupes très structurés qu'on peut pénétrer, etc. C'est l'occasion qui fait le larron. Donc ça se regroupe, ça casse, ça disparaît. Et souvent d'ailleurs, quand on attrape des gens, c'est surtout ceux qui courent les moins vite et qui sont les moins expérimentés, parce qu'ils savent attaquer et disparaître
parce
à toute vitesse.
Parce que les pros, ils s'en vont vite. Quoi.
Voilà, ils s'en vont vite. Ils savent le temps qu'ils ont à faire. Ils sont très organisés. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Voilà, qui a existé par là, il y a une trentaine d'années, qui avait disparu et qui est revenu connu, qui avait commencé au moment de la loi travail et qui s'est maintenant installé. Je signale simplement une chose, regardez, on a maintenant une bonne lecture de ce qui s'est passé au moment des gilets jaunes, et je distingue les gilets jaunes des noyaux de casseurs, là aussi. Quand il y a eu l'affaire de l'attaque de l'Arc de Triomphe, on sait désormais que le noyau qui a attaqué l'Arc de Triomphe avait rien à voir avec les gilets jaunes. C'est un groupuscule d'extrême droite qui a été dissous, d'ailleurs.
Ça peut pourrir le climat, Julien, jusqu'à la présidentielle?
Je pense qu'il y aura une vigilance maintenant, on voit bien, de la préfecture de police de Paris. Déjà, vous avez vu sur les manifestations d'enseignants, ils ont été extrêmement prudents. Il y a toujours, je veux dire, le débordement de ces groupuscules-là, il est difficile à totalement maîtriser. Mais c'est vrai qu'en France, ces derniers mois, il y a eu un savoir-faire. On voit bien qu'il y a une progression. Donc on arrête plus en amont, on fouille plus, les groupes qui se constituent. Bon,
voilà. Je ne parle pas que des grandes manifs. Il y a eu un élu de la République En Marche qui a été vraiment molesté à Perpignan. Les images sont impressionnantes. Il fait face à une horde déchaînée. Il doit se réfugier chez des voisins pour échapper au lynchage. Ça, ce climat-là, Monsieur Couvi, il est extrêmement inflammable.
Mais bon, on sent que... je vous dis, il y a eu les gilets jaunes où on a vu que la société avait bougé après départ. C'est des révélateurs, hein, la crise des gilets jaunes. Il y a eu après la crise de la Covid. Et quand il y a le mot crise, souvent c'est un révélateur pour après. Et on voit que la société change et que maintenant, ça y est, elle devient de plus en plus violente. Elle s'exprime que par la violence. Parce qu'encore une fois, je vous dis, il y a eu la disparition aussi des corps intermédiaires. Donc du coup, maintenant, les gens ont l'impression que le gouvernement, les politiques n'écoutent plus la base, n'écoutent plus le peuple. Et du coup, leur seule façon à eux, à la rigueur, de s'exprimer, c'est par la violence. Et c'est là le problème. C'est qu'il n'y a plus de dialogue. Il n'y a qu'un monologue, et le monologue de la peur, j'allais dire, où on vient carrément directement au contact. On ne faisait jamais ça avant.
Maître Golandel, vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Non, disons que sur les antivax, il est certain qu'il y a une sainte alliance entre l'extrême droite radicale et l'extrême gauche radicale qui communient dans un même complotisme, dans un même anticapitalisme, voire dans un même antisémitisme, et on voit ça. Le malheureux député bien courageux de La République En Marche qui s'est fait agresser, alors même qu'il a eu le courage de sortir pour vouloir dialoguer. Il faut pas exclure non plus la méchanceté de la foule, hein. C'est méchant, une foule, quand elle se sent forte, quand elle est encolérée, toutes les foules sont méchantes. J'en connais pas de bonnes. Et j'ajouterai, alors ça n'a rien à voir avec la violence qu'on perçoit dans les banlieues, mais il y a aussi, enfin vous appelez ça l'absence de dialogue, etc., il y a le sentiment, qui n'est pas totalement illégitime, d'impunité. Les types se sentent parfaitement capable de pouvoir cogner sans avoir rendre des comptes.
Alors, on fait une pause, justement, on va parler de ça. Et Monsieur Couvi, vous êtes policier, vous aurez évidemment de quoi nous en parler. Cette agression d'un chauffeur de bus à Paris par un automobiliste venu fou furieux. Une scène filmée sur les réseaux sociaux. Et on verra la réponse de la justice. Elle est assez intéressante. On essaiera de la comprendre parce que, évidemment, l'agresseur est ressorti libre. Sandra Buisson sera avec nous. On les expliquera les tenants et les aboutissants. Comment, après avoir agressé comme ça un chauffeur de bus, on peut ne pas avoir de sanctions immédiates alors que c'est une des demandes des Français? On en débat dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, Julien Drey, Maître Golnadel et Jean-Christophe Couvi, policier, secrétaire national, unité SGP. On va parler de ce qui s'est passé à Paris la semaine dernière. L'agression d'un chauffeur de bus, un conducteur qui a été frappé, molesté par un automobiliste qui était fou furieux, sans doute après un petit accrochage. La scène a été filmée sur les réseaux sociaux et on va voir la réponse de la justice à cette agression. Explication de Reda Emrabi.
La scène se déroule dans le 12e arrondissement de Paris ce jeudi. En fin d'après-midi, un automobiliste s'acharne en donnant plusieurs coups contre la vitre d'un bus RATP. Sa cible, le conducteur. Sa voiture est entrée en collision avec le car. Des passants s'interposent pour contrôler l'homme. L'agresseur arrive à pénétrer dans le bus et donne plusieurs coups de poing au conducteur sous l'œil des témoins.
Vous arrêtez ! Vous arrêtez !
Une scène qui a beaucoup fait réagir ce week-end et qui pourtant se reproduit de plus en plus, selon Reda Benrerbia, secrétaire général du syndicat TO-RATP.
C'est jamais supportable, mais c'est de plus en plus violent. Je veux dire, je pense à des événements bien plus graves, malheureusement, à mes collègues qui ont vu leur bus se faire incendier. Comment, comment on peut réagir face à ça? On a la boule au ventre, et la boule au ventre, ça se propage. Donc on voit bien qu'il y a, une vraie montée en violence et une vraie inquiétude pour chacun d'entre nous.
Après quelques heures en garde à vue, l'agresseur, âgé de 26 ans, a été libéré. Il sera convoqué pour être jugé prochainement.
Alors, voilà pour les faits. On va en débattre dans un instant. J'aimerais juste qu'on écoute le témoignage de quelqu'un qui était dans ce bus-là. Un jeune homme qui a filmé la scène parce qu'ils étaient piégés. Les passagers ne pouvaient pas bouger. Et il voulait faire des preuves. Et il a expliqué à Sandra Buisson ce qui s'est passé à ce moment-là. Écoutez-le.
Ça a commencé par le bus qui a freiné un peu violemment, mais pas forcément très fort. On a vu la personne qui était devant sortir de sa voiture et commencer à s'énerver contre le chauffeur de bus. Et à ce moment-là, il a commencé à mettre des coups de poing dans la vitre. Moi, j'ai entendu des bruits de fissures. Effectivement, il avait cassé la vitre de ses propres mains. À ce moment-là, il a refait le tour de l'autre côté pour arriver au niveau des portes de la cabine de bus. Il a mis des coups dans ses portes pour y accéder et au final mettre des coups au visage du chauffeur. Pendant toute la durée de l'action, l'agresseur était très énervé et il insultait et menaçait le chauffeur de mort. Il lui a même dit « tu vas venir dans ma voiture, je vais te tuer » pendant qu'il lui mettait des coups dans la cabine. Et pendant toute cette action, du coup, il était seul dans la cabine, personne ne pouvait intervenir et même le chauffeur ne s'est pas défendu. Pour le chauffeur, j'ai vraiment cru qu'il allait se faire tuer à ce moment-là sans que personne ne puisse rien faire. Moi, je me suis levé parce que par instinct, je voulais intervenir. Sauf que tous les gens du bus, on ne pouvait rien faire parce qu'on était enfermés dans le bus.
Voilà pour ce témoignage exclusif recueilli par Sandra Buisson de CNews du jeune Mehdi. Jean-Christophe Couvy, c'est la jungle, c'est la loi du plus fort en permanence. Vous êtes chauffeur de bus, on vous tape. Vous êtes policier, on vous tape. C'est ça la réalité, notre réalité?
Oui, hélas, on le voit au quotidien. Moi, je dirais que la loi du plus fort, enfin, l'État doit être plus fort que la loi du plus fort. C'est ça la vérité.
Mais on en sait plus après, sur l'auteur des faits ou pas?
A priori, il était déjà connu. Oui. C'est un récidiviste, encore une fois. Voilà, c'est ce qu'on n'arrête pas de clamer haut et fort, qu'il faut vraiment une prise de conscience pour arrêter.
On entend crier Sofiane, arrête, Sofiane, arrête.
Même sa compagne, sa copine n'arrivait pas à le retenir. Elle était en crise de démence, si vous voulez. Voilà, vraiment. Je pense, oui, plus que défoncer que le bus, mais surtout le chauffeur, est inarrêtable. On voit des personnes là qui essaient de le raisonner. Il est dans son monde, quoi. Pour lui, sa réponse, c'est une réponse de violence. Voilà. Il a un individu en face de lui, il doit le détruire parce qu'il n'a pas les moyens, de toute façon, de s'exprimer autrement. Et il doit arriver à ses fins. Et moi, ce que je vois, c'est que cette personne-là, parce ils sont aussi malins, ils connaissent aussi le droit. Et c'est qu'en fait, il a fait entre guillemets un plaidé coupable. C'est-à-dire qu'il a reconnu qu'il était coupable. Il peut pas faire autrement. Donc, du coup, on négocie avec le procureur une peine. Donc, voilà.
La question qu'on pose, c'est qu'il est en liberté ce soir.
Oui, il est en liberté.
On est
oui.
D'accord. Il n'a pas eu de réponse de la justice.
Non, il sera convoqué plus tard, justement, pour fixer le montant de la peine.
D'accord, ok. Voilà. Ça pose question, quand même. Hein, parce que ça veut dire que Maître Golnadel, on va écouter Sandra Buisson dans un instant, mais ça pose question.
Je réagirai après.
Voilà. Alors, on va écouter Sandra Buisson. Sandra Buisson est avec nous du service police-justice de CNews. Expliquez-nous la réponse judiciaire et pourquoi cet homme est toujours libre ce soir, Sandra.
Arrêté immédiatement et placé en garde à vue, l'homme a reconnu être l'auteur de l'agression du chauffeur de bus. Et au vu de son profil, notamment, plutôt qu'une comparution immédiate, le parquet a décidé de le convoquer pour une CRPC, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, sorte de plaider coupable. Ça veut dire que cet homme est convoqué à une date ultérieure devant un magistrat. Ce jour-là, le magistrat lui proposera une peine s'il l'accepte. Et si un juge homologue cet accord, eh bien, cet homme sera définitivement condamné pour dégradation de biens publics, mais aussi pour violence ayant entraîné moins de 8 jours d'ITT, puisque le chauffeur a eu 3 jours d'ITT. Pour ces violences commises sur personne chargée d'une mission de service public, il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Un mot pour préciser que dans le cas d'une CRPC, la détention provisoire n'est pas possible, ce qui explique pourquoi cet homme est libre en attendant ce rendez-vous avec le magistrat. Attention, si ce jour-là, il refuse la peine proposée par le magistrat, alors il sera renvoyé devant le tribunal correctionnel et sera jugé dans le cadre d'un procès classique.
On a l'explication littérale, Maître Golnadel. N'empêche que
cette explication,
la réalité, c'est que cet homme est libre. Et
cette explication n'est pas une excuse de ce laxisme évident. Ce Sofiane, l'histoire de ce Sofiane...
L'agresseur, on parle de l'agresseur.
Oui, l'histoire de ce Sofiane, c'est l'histoire de quelqu'un qui a un passé judiciaire, et je vous fiche mon billet, qu'il n'a jamais fait un jour de tôle. Et donc, il a été habitué. Il a été sur l'école, son école, c'est de savoir qu'il peut utiliser la violence impunément. En plus, c'est un enragé. C'est un enragé. On voit bien, savez que pour casser une vitre avec son poing à la suite d'un simple litige automobile, il y a un film que je vous recommande qui s'appelle Enragé, avec Russell Crowe sur Canal Plus, qui montre ça, qui montre jusqu'où ça va parce que quelqu'un l'a klaxonné, parce qu'une fille a eu le malheur de klaxonner. Mais ça, c'est une fiction qui, en vérité, épouse la réalité d'aujourd'hui. Mais je prétends que c'est le laxisme invraisemblable, parce que qu'est-ce qui obligeait le procureur de rentrer dans ce... Il suffisait de faire une comparution,
immédiate
et de le mettre en prison. On a choisi une autre voie qui n'est certainement pas ni prophylactique ni pédagogique à l'égard de tous les autres. C'est tout.
Donc ça, c'est un exemple.
Mais c'est un exemple, parce que vous nous montrez celui-là et parce que celui-là a été filmé.
Bien sûr.
La seule différence avec tous les autres, c'est que celui-là, nous avons un document filmé, c'est tout.
Monsieur Couvi.
Oui, c'est parce
que.
Non,
mais ça veut dire que là, c'est on laisse les gens.
Ils ont joué avec la loi. Voilà, la loi, propose. Enfin, on peut pas aller outre. Il a eu un bon avocat entre guillemets qui a négocié avec le procureur. Mais ce que je veux dire, c'est moi, ce qui m'embête encore une fois, c'est toute la, j'allais dire, l'immédiateté de la réponse pénale. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un, on le voit, il commet des violences volontaires. Et encore une fois, ce mec-là, il est libre. Donc, il peut recommencer ce soir, il peut recommencer demain, après-demain. Et imaginez un petit peu.
C'est une incitation.
C'est une incitation. Et c'est Sénèque qui disait qu'il faut punir, non pas pour punir, mais pour prévenir. Donc, en fait, encore une fois, ces gens-là, multirécidivistes, ne comprennent pas le niveau de la sentence. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont punis, ils ne comprennent pas cette portée. Donc en fait, quelque part, la justice a échoué.
Donc là, ça sera dans quelques semaines, voire quelques mois.
Mais oui, mais d'ici là, l'eau aura coulé sous les ponts, il ne comprendra pas.
Qu'est-ce qu'il prendra au max? Sandra parlait de 3 ans de prison.
Mais non, mais je n'y crois pas du tout.
Il ne fera pas un jour de prison?
Je n'y crois pas du tout, parce que...
Maître Golnadel.
Le temps démonétise tout.
Le temps entre l'acte et la sanction.
Le temps en matière judiciaire, c'est l'avocat qui vous parle. Plus vous gagnez du temps pour votre client, mieux il se portera.
On dépassionne les débats.
C'est clair.
C'est ça.
A fortiori dans des affaires médiatisées.
Il va s'excuser, pardonnez-moi, je n'étais plus moi-même, etc. Ouais, c'est classique.
J'ai un métier, comment voulez-vous je gagne ma vie, je ne peux pas aller en prison.
Comment voulez-vous que les Français comprennent la réponse pénale telle qu'elle aurait fournie, là, sous leurs yeux, dans cette affaire? C'est incompréhensible. Alors, je sais bien, sauf erreur de ma part, que la politique pénale n'a pas changé depuis un certain temps, et la ligne globale, c'est tout de même d'essayer d'éviter les incarcérations. On est bien d'accord.
Je suis d'autant plus d'accord que comme on n'a pas construit de prison, un juge qui n'est pas laxiste répugne à mettre quelqu'un en prison, puisque c'est davantage encore vecteur. Mais quand il est en prison, il n'est pas ailleurs.
Récidiviste, donc qui est un habitué de ce genre de gestes, de ce genre d'actes, qui se comporte comme une racaille. Franchement, comme une racaille. C'est vrai que des chauffeurs d'autobus agressés, il y en a de plus en plus.
C'est une
racaille. Il tape sur tout ce qui bouge. Bon, et c'est pas grave. Avec un bon avocat, il se débrouille, il négocie. Quand sera-t-il jugé?
Mais comment les Français peuvent comprendre ça?
Mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ça sera plus le même fait divers. Ça sera plus la même situation.
Alors, Julien Drey.
Je pense qu'il y a des comportements détraqués, des éléments extrêmement violents. Je pense que ça fait partie d'un climat dans cette société qui a dégénéré. On voit bien que la violence est devenue une manière de régulation des conflits, etc. Après, je vous mets quand même en garde. Moi, je connais pas le dossier. Vous parlez les uns et les autres avec des éléments que je sais pas d'où vous les tenez. Mais l'image, c'est un élément qui est qui est détraqué. Alors après, il y a un casier judiciaire. Je sais pas. Maître Golnadel, visiblement, doit avoir des confidences des avocats.
Golnadel a été peut-être plus attentif que vous aux explications de Sandra Buisson, et d'ailleurs que j'avais déjà lu dans la presse.
Ce que je veux dire par là, c'est que...
Monsieur Sofiane,
des dons divinatoires, j'ai aucun doute que vous n'en avez pas. Ça, je suis certain, je peux en témoigner.
Il a un passé violent. Ça a l'air de vous gêner, mais il a un passé violent.
Mais non, ça ne me gêne pas du tout. Je ne sais pas.
Arrêtez
le le petit cinéma qui, ouais, voudrait, qui va conduire à dire que bientôt, moi aussi, je suis complice d'un élément violent. Ça, vous le gardez pour
je
vous.
Ne vais pas jusque-là.
Bah, heureusement, heureusement, parce que sinon, le ton serait autre dans ces cas-là.
Je crains votre propre violence.
Oui, non, non, pas ma propre violence.
Je demande
que moi, je sois délinquant, donc vous ne serez pas délinquant. D'accord.
Mais enfin, vous m'expliquez que j'ai des dons divinatoires.
Non, je dis simplement que dans ce genre d'histoire, vous devriez d'abord parler avec les avocats, parce que moi, je suis d'accord avec le policier. Là, visiblement, il y a des avocats qui ont été malins et qui ont su plaider avec intelligence et passer au travers. Donc peut-être.
Le procureur n'était pas obligé de dire
si
oui.
Vous permettez, peut-être qu'il faudrait donner la parole au procureur pour qu'il nous explique. C'est ça qui m'intéresserait de savoir. Oui, moi, je voudrais savoir pourquoi le procureur a fait ça, et pour, y compris à partir de là, porter un jugement. C'est rien, y compris à l'égard du procureur.
Il reste pas moins qu'il n'y a pas de réponse pénale.
Je n'y voyais pas une jalousie confraternelle, mais le meilleur des avocats n'est pas en mesure de convaincre un procureur de ne pas mettre quelqu'un en prison qui mérite d'y être.
D'accord. Alors, Monsieur Couvi, Jean-Christophe.
Alors, on a un problème aussi, c'est que on a un tableau tous les jours qui dit aux magistrats, les prisons sont pleines, ne mettez pas les gens en prison. Donc, il faut trouver des alternatives. Voilà. Je vais pas refaire l'histoire.
La comparution immédiate, l'aurait envoyé en prison à coup sûr ou pas?
La comparution immédiate.
Oui.
Bah, pas forcément.
Mais non,
parce que tout se défend. Les avocats peuvent plaider en disant il faut dépassionner le débat, on n'a peut-être pas tous les éléments pour organiser notre défense. Et donc, du coup, on demande à.
C'est pas seulement ça. C'est que le procureur, peut-être, n'est pas sûr de son juge, du juge vers lequel va être déféré Sofiane. Voilà la réalité.
C'est possible aussi.
C'est comme ça que ça marche.
Après, je pense qu'on ne va pas refaire le débat, mais effectivement, il y a eu un tournant quand même. C'est aucune attaque, hein. C'est juste dans la réponse pénale, c'est quand la loi du 15 août 2014, hein, c'était la loi Taubira, qui était censée, renforcer l'efficacité des sanctions pénales et pour prévenir la récidive. Bon. Quelques années plus tard, quand même, on se rend compte que ça ne marche pas, puisqu'on est justement pourri dans la vie du quotidien par tous les gens qui sont en récidive et qui sont multirécidivistes. Donc ça, je pense qu'il faut changer un petit peu cet axiome. Il faut revenir sur vraiment de la peine, mais des peines qui ont un sens. Et en Hollande, je répète encore, mais aux Pays-Bas, c'est vrai qu'ils jugent et ils donnent des peines de prison, même de 3 jours, 4 jours, 5 jours, des petites peines, mais les gens les font réellement. Et ils ont vidé 50% des places de prison. Dans les Pays-Bas. Et il les loue aux Belges, il les loue aux Danois. Et pourquoi
de vider les prisons, ça va pas vous plaire.
Mais il faut les vider. Non, mais c'est le but. Hein. Le but, c'est quand même de les vider. Le but, surtout, c'est de ne pas y rentrer. Et de ne pas y rentrer, c'est de ne pas commettre d'infraction. Quand on commet une infraction, on paye la note. Point. Et d'ailleurs, souvent, les voyous disent qu'ils payent la TVA. Quand ils vont en prison, on dit bon, c'est ma TVA pour tout l'argent que j'ai reçu. Voilà.
Moi, je pense que le débat que nous avons aurait un intérêt particulier si on donnait la parole au procureur. Moi, je pense que dans cette affaire-là, ce qui m'intéresse, pour pouvoir porter un jugement, que le procureur, que le parquet puisse venir nous expliquer pourquoi il a fait ça, donc quels sont les éléments qui ont conduit à ça. Parce que là, après, nous, on va faire de la surenchère les uns les autres. Moi aussi, je suis cet individu-là. On a envie que de le mépriser, de son comportement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la justice puisse s'expliquer. Si elle s'explique pas, ça va continuer en permanence, ce genre de choses. Voilà. Et donc, la question qui est posée aujourd'hui, c'est justement que le parquet, il est soumis à la question, et c'est normal.
Problème,
et donc, nous expliquer.
Il y en a 1000 par jour, des affaires comme ça.
Vous m'enlevez de la bouche. C'est que...
Il faudrait qu'ils viennent en permanence, les procureurs.
Parce que là, on est dans un cas particulier qui a été filmé, avec un comportement extrêmement violent, avec en plus la question qui est posée de pourquoi il n'a pas été... je dirais... Y compris s'il y en a d'autres, au moins celui-là peut être décortiqué et ça nous permet de comprendre.
Il faut comprendre que une partie de la justice française, y compris le parquet, vit dans une sorte de bunker et quelquefois perd le contact avec la réalité, sous l'inflation du nombre d'affaires. Vous n'imaginez pas à quel point ces gens-là sont débordés.
Donc, par des affaires de ce type, en fait.
Donc, bien sûr. Ouais. Mais encore une fois, cette affaire, elle est d'une affligeante banalité. Son originalité, c'est qu'elle a été filmée. Mais pour le procureur qui reçoit le dossier, qui n'a peut-être pas entendu parler de cette affaire-là, c'est une affaire lambda. Donc, si vous voulez, elle est dévaluée d'une certaine manière.
Non, mais elle est très symbolique, maître. Elle est très symbolique.
Je pense qu'il y a de la violence, il y a de la violence quotidienne, des exactions. Mais un type qui en est à deux doigts de tuer, parce que c'est ça la question, qui est à deux doigts de tuer
un chauffeur de bus,
avec visiblement en plus un physique qui est particulier, etc.
L'armoire
à glace, c'est pas un phénomène qui se multiplie par 25 tous les jours.
Moi, je peux vous dire que parmi mes causes de désespoir professionnel, c'est justement la passivité judiciaire, y compris pour des et la lenteur aussi, y compris pour des affaires bien plus graves que celle-là.
Bon. Voilà, c'est tout. Raison, c'est un grave problème d'acier. De la société française. Je ne sais pas qui aura le courage de s'y attaquer. Je ne sais même pas quelles mesures prendre. Mais au jour d'aujourd'hui, priver les moyens d'une politique pénale sévère, et il est temps qu'elle le devienne, parce que quand même, on en parlerait tous les jours si on souhaitait. Il est temps qu'elle change. Mais non, vous n'entendez rien. Et on ne sait jamais rien. Le juge, pourquoi a-t-il pris cette décision? On ne sait pas. Dans combien de temps sera-t-il jugé? On ne sait pas. On sait tout juste ce qu'il risque, et encore.
Et puis je vais vous vider mon cœur jusqu'au bout. C'est pas la première fois que je le dis. La justice française, actuellement, se montre, je suis pas dans le jugement de valeur, et Dieu sait si j'en ai un, mais se montre infiniment plus efficace, plus diligente, plus motivée sur les affaires financières que sur les affaires de violence.
Par exemple, Claude Guéant, qui est toujours en prison.
Par exemple, un homme de plus de 77 ans qui est encore en prison aujourd'hui alors que Sofiane n'y est pas.
Allez, oui, je vous passe la parole dans un instant.
30 secondes. Je veux dire, dans la hiérarchie, on ne peut pas dire il faut être gentil avec la délinquance financière et il faut être violent avec les autres. Parce qu'il compris,
c'est pas, ça. Vous avez fâcheuse tendance aujourd'hui de caricaturer ce que je dis.
De créer les conditions d'une amnistie de la délinquance financière.
Mais comme je ne l'ai pas dit, ça tombe bien.
Allez, on fait une pause. On continue ce débat dans un instant avec vous quatre. On parlera aussi du bilan sécurité d'Emmanuel Macron, jugé très sévèrement par les Français. 69% d'entre eux pense que le bilan sur la sécurité s'est dégradé. A tout de suite dans Punchline.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Jean-Claude Dacier, Julien Drey, Maître Golnadel, Jean-Christophe Couvi, qui est policier. On évoquait le cas de ce chauffeur de bus qui a été violemment agressé à Paris. Et on faisait le comparatif avec, et vous le faisiez, Maître Golnadel, avec Claude Guéant, qui est toujours en prison. Ça vous a fait bondir, Julien Drey. Pourquoi ? C'est pas une justice à deux vitesses ?
Je pense que l'un n'excuse pas l'autre. Et je voudrais pas qu'on se dise que parce que la justice est défaillante dans un certain nombre de choses, ça justifie le fait après de passer les ponts sur un certain nombre de comportements qui sont pas admissibles de la part d'un certain nombre de responsables politiques. Voilà, je me permettrai pas ces jugements sur les responsables politiques en général, mais là il y a eu des condamnations, elles sont lourdes et elles sont pas, excusez-moi, à piquer des hannetons par rapport aux actes qui ont été commis.
Alors, maître, un dernier mot là-dessus puis on avance après.
Je dois reconnaître que en ce qui me concerne, mais ça ne concerne que moi, j'estime que le sens est encore plus important que l'argent. Mais ça n'est pas ce que je disais là. Je dis simplement que,
vous opposez le
empiriquement,
sens à l'argent.
Empiriquement, je constate qu'il y a beaucoup plus d'efficacité, de diligence et de motivation dans les affaires financières, c'est tout.
Un ministre de la République, ministre de l'Intérieur, qui est pris en flagrant délit de fautes qui sont quand même pas n'importe lesquelles, ça n'a pas de sens pour la société.
C'est pas le sujet du jour.
C'est pas ce que je disais du tout. Je dis simplement que moi, je suis capable.
Sur les sondages de l'Élysée, il n'y a jamais eu un appel d'offres lancé là-dessus.
On fait pas l'histoire des clients.
Et surprenant quand même. Reconnais-le. Avec des condamnations très lourdes.
On revient à nos moutons, Jean-Claude.
Tous ces gens-là ont des avocats ici extraordinaires.
On va parler de la sécurité.
Non, d'accord.
Allez les garçons.
On n'aime pas trop que les vieux qui ont payé leurs amendes soient en prison. Et que les jeunes violents n'y soient pas, mais on est peut-être spéciaux.
Faites l'autorité
sur le plateau. J'aimerais qu'on parle juste du bilan sécurité d'Emmanuel Macron. Il est jugé très négativement par les Français. 69% d'entre eux jugent ce bilan négatif, selon un sondage IFOP publié hier par le Journal du Dimanche. C'est assez important. Il y a des chiffres, encore une fois, qui sont assez forts. On va demander quelques explications à l'ex-signor Loïc. Pourquoi Emmanuel Macron est autant attaqué depuis le départ sur ces questions de sécurité, Loïc ?
Pour mieux comprendre ce procès fait à Emmanuel Macron, il faut remonter à sa campagne de 2017. Dans une période post-attentat, presque tout le volet sécuritaire de son projet était consacré à la lutte contre le terrorisme, rien ou presque sur l'insécurité du quotidien. Grande promesse à l'époque pour y remédier, la PSQ, police de sécurité du quotidien, jamais pleinement mise en place, bilan très faible aussi sur les places de prison. Sur les 15 000 promises, 2 000 seulement ont été livrées. En revanche, les syndicats de police saluent quasi unanimement le recrutement de 10 000 forces de police et de gendarmerie. Bien aidé aussi Emmanuel Macron dans son rapport aux forces de l'ordre par la nomination de Gérald Darmanin à Beauvau à la place de Christophe Castaner. En réalité, comme souvent avec le président, ce sont ses mots qui ont ouvert des brèches à l'opposition. Quand il valide par exemple le terme de violence policière ou lorsqu'il fustige ceux qui font, je cite, le Kama Sutra de l'ensauvagement. Mais dans l'entourage du président de la République, on se rassure, s'il nous attaque sur la sécurité, c'est qu'on est, je cite, les meilleurs sur tout le reste.
Alors voilà, Julien Drey, là, on ne manque pas de modestie dans la majorité présidentielle. C'est un véritable enjeu de campagne. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans la campagne présidentielle.
Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un des éléments, mais la campagne présidentielle ne va pas se réduire qu'à ça. D'ailleurs, regardez les sondages qui viennent de sortir. Les leaders syndicaux ont si on veut que les citoyens aient le sentiment qu'ils sont respectés, considérés et qu'une élection sert à quelque chose, il faut aussi parler de leurs problèmes. La sécurité en est un, mais il y a aussi des problèmes de pouvoir d'achat, il y a un problème d'effectifs, de services publics. Il faut en parler aussi. Je crois que ça sera important
dans une campagne présidentielle. On parle le mieux aujourd'hui.
À qui on parle le mieux? Bon, on va voir. Ça, c'est la campagne pour l'instant. Elle a été très focalisée, je dirais, à droite et à l'extrême droite. Il faut effectivement que.
Elle l'est toujours, hein.
Oui, mais il faut effectivement que dans les jours à venir, la gauche soit capable de parler des deux, d'ailleurs. Comme l'a fait très bien la social-démocratie scandinave qui a gagné les élections. Elle était capable d'être dure avec le crime et dure avec les causes du crime. Et donc, dans les causes du crime, il y a tout ça.
Mais cher Julien Drey, la gauche est difficilement audible.
C'est pour ça qu'il faut travailler vite. C'est pour ça qu'il faut travailler. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Vous voyez que les choses peut-être vont avancer un peu.
Vous m'avez parlé de François Hollande la semaine dernière.
Je n'avais pas parlé de François Hollande.
Je
vous avais dit qu'il faudra qu'un certain nombre de grands responsables politiques de gauche assument aujourd'hui de sortir de cette guéguerre stupide de primaire populaire qui n'est qu'un sondage, pour pouvoir, avec autorité, poser, je dirais, les débats d'une alternative politique crédible, réformiste, sérieuse.
Soyons très clairs. François Hollande, hier interrogé par France 3, disait à des enfants « Je ne suis pas encore candidat, je vais m'exprimer très prochainement ». Sérieusement, il envisage de se présenter ou en tout cas de faire entendre sa voix.
Il envisage, je ne peux pas parler à sa place, je ne suis pas son confident. Mais je ne suis pas son confident et moi je ne me permets pas de parler à la place des gens comme ça. Je considère qu'il est comme un certain nombre de responsables socialistes. Il est catastrophé par ce qui est en train de se passer. Il est catastrophé par de l'impréparation de cette campagne présidentielle et je vais vous donner un exemple très simple. Moi, c'est pas Hidalgo que je mets en cause aujourd'hui. C'est la direction du Parti Socialiste. Et d'un certain point de vue, je pense qu'il faudrait qu'elle passe très vite la main pour qu'une nouvelle équipe puisse conduire cette campagne. Parce qu'elle n'est pas en capacité de mener cette campagne.
Harakiri avant la campagne.
Non, c'est pas Harakiri, c'est qu'on met des gens. Moi, vous savez, quand on fait un meeting d'une candidate au Bourget, en général, c'est entre 5 et 10 000 personnes qu'on
met. Et avec combien ?
C'est pas 1200.
Maître Golnadel, un mot là-dessus ?
Même l'évaluation de 1200 me paraît optimiste. Mais là-dessus, je suis assez d'accord avec Julien Drey. La gauche française a rompu avec le peuple. Raison pourquoi le peuple a laissé. C'est aussi simple que ça. Et l'exemple scandinave est un exemple à méditer pour la gauche française, pour autant qu'elle sorte de cette gauchisation qu'elle a subie et qu'elle continue de diffuser, parce que la gauche scandinave, elle est dure non seulement dans les problèmes de sécurité, mais je viendrais oublier de le dire aussi, elle est dure aussi et très concrète en matière d'immigration illégale.
Absolument. Un mot de la sécurité, le bilan d'Emmanuel Macron, 69% monsieur Coubi, qui juge que son bilan en matière de sécurité est négatif. C'est assez lourd quand même comme jugement.
Oui, alors c'est un bilan, c'est pas un dépôt de bilan non plus. Il faut prendre la sécurité. Je pense qu'il faut prendre la sécurité sur plusieurs années, parce que c'est pas en 5 ans qu'on fait fléchir la société qui devient plus criminogène ou pas. Sur les dernières années, je me suis amusé à calculer. Sur les 20 dernières années, on a eu 14 ministres de l'Intérieur. Ça fait tout un an et demi, on a un nouveau ministre de l'Intérieur qui arrive, qui choisit un nouveau directeur, veut impliquer une nouvelle politique policière. Sauf que nous,
on veut faire une nouvelle loi.
Une nouvelle loi, etc. On a une technostructure police qui a compris ça aussi. Et qui, elle, reste à flot. Et qui dit, bon, de toute façon, on a le ministre, il est là pour un an et demi. Allez hop, nous, on continue, bon an, mal an. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est la constance dans l'effort. Et on se voit bien qu'à chaque fois, chacun va arriver avec sa vision des choses et nous casse notre élan. On avait la police de proximité. Après, on nous a dit non, il faut une police à l'américaine répressive qui se voit avec des statistiques et être super offensif. Ça, c'était Sarkozy. Après, on nous a dit donc moins 13 000 policiers. Après, on nous a dit, le président Hollande, bon, on va remettre les écoles en route. On avait déjà 10 écoles de fermées, sauf qu'on lui met quand même aussi la map. Donc, on est quand même un petit peu bloqué. On a un plafond de verre. Bref. on repédale un petit peu dans la choucroute. On arrive ici, effectivement, on a eu deux crises. Là, maintenant, le président nous propose un texte de loi. C'est un projet. On verra s'il est mis en place ou pas par la personne qui va être élue. Si c'est lui, pas lui, on verra tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a déjà bossé avec
vous
le Beauvau. On a un
squelette. De cette espèce de
mais
folie
en fait, c'est
des
ça,
chaises musicales.
Mais c'est ça.
On est d'accord.
Et il faut cette constance dans l'effort.
Et oui, et la loi de programmation, normalement, elle est faite pour durer. Jean-Claude, un petit mot là-dessus.
Un petit mot
à
rapide,
la fois sur ce qui se passe à gauche et à droite.
Le problème de Macron, c'est qu'il est quand même assez malin, pour ne pas dire davantage, dans sa gestion de son projet politique, à savoir à droite et à gauche. Il y a des gens de droite et beaucoup d'électeurs de droite, c'est un des problèmes de Pécresse d'ailleurs, qui sont avec lui et qui peut-être n'ont pas l'intention de le lâcher, nous verrons. Et puis il y a aussi des gens de gauche qui l'ont rallié il y a déjà un certain temps et qui continuent de le soutenir. La politique pénale, c'est ça. Ne vous y trompez pas. S'il ne fait pas les places dont, semble-t-il, certains pensent qu'on en a besoin, je suis de ceux-là, 14 000 ou 15 000 places promis qui n'ont jamais été faites, je pense que c'est volontaire. C'est pas fait, c'est pas le hasard. De l'argent, il en avait. Il l'a montré, notamment à l'occasion de la crise du Covid, etc. Donc, s'il ne l'a pas fait, s'il a nommé un garde des Sceaux qui est un authentique homme de gauche,
c'est
parfaitement respectable,
c'est
quelque part, il faut donner aux deux camps pour essayer de continuer. Et il va faire campagne sur ce qu'il a gagné, ce qui lui a permis de gagner il y a 5 ans. Il est à la fois un homme de gauche, il est à la fois un homme de droite, il est plutôt de droite sur l'économie et plutôt de gauche sur le régalien, etc. Nous verrons les résultats. Ce qui est certain, c'est que sur la sécurité, il n'est pas bien, et que sur l'immigration, qui est un des thèmes forts, à juste raison mis en avant par quelques autres, dont Zemmour, il est probablement dans une situation... Alors, peut-être qu'il va réagir. Après tout, on ne voit ça. C'est dans 2 mois l'élection. Mais sur ce domaine-là, il me paraît un peu en difficulté.
Il faut qu'il se dépêche quand même. Hein.
Oui, mais un grand discours. Mais je ne suis pas sûr qu'il le fera. Non,
un petit mot,
je suis pas sûr.
Sur ce qui se passe à droite, on voit qu'il y a pas mal de ralliements venant du Rassemblement national vers Éric Zemmour, des LR aussi. Est-ce qu'il y a un début de recomposition, à votre avis, ou pas?
Je pense que ça n'aura
Est-ce que l'union des droites est en train de se faire sous nos yeux ou pas ?
Je pense qu'il s'agit de quelques aventuriers qui sont les traditionnels de ces campagnes électorales et qui changent de camp. Ce sont des aventuriers, ça n'aura aucun impact sur le corps électoral, vous allez voir. D'ailleurs, le sondage d'aujourd'hui le confirme. Je pense que j'ai pris un engagement avec mon ami William Goldnadel. J'ai dit que Éric Zemmour serait bas. Vous voyez, j'assume.
Oui.
Voilà, il sera bas électoralement parlant.
Il y a une bagarre terrible avec Marine Le Pen.
Je crois qu'il n'y a quasiment plus de bagarre. Je pense qu'elle a déjà gagné la bataille.
Ah oui.
Et d'ailleurs, il lui a servi. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'à la fin de la campagne, elle le remercie, puis il lui a servi. Il lui a permis d'apparaître comme modéré, d'être responsable, elle n'a pas paniqué. Grâce à lui, elle a pris une stature qu'elle n'avait pas au point de départ. Donc, il a été le meilleur allié objectif de Marine Le Pen.
Maître Goldnadel, le ralliement de Gilbert Collard, ça compte pas?
Écoutez, très sincèrement, je m'inscris d'ailleurs pas en faux par rapport à ce qui a été dit par Julien Drey. J'avoue mon ignorance, il faudra étudier, sur ce que valent les ralliements de la dernière heure. Comment une opinion prend cela? Ça peut être même contre-productif, indépendamment de la valeur intrinsèque des ralliés. Mm-hmm. Mais il faut reconnaître aussi que l'une des qualités que l'on prête aujourd'hui à Marine Le Pen, au-delà effectivement du fait qu'elle a été adoucie par comparaison par Éric Le Pen, c'est le calme dans la tempête. Et il est peu, parce que quand même, on lui prédisait lors de l'arrivée d'Éric Zemmour les pires choses. Même son père s'était mis, non mais attendez, même son père s'était mis contre elle. Donc il est possible que ça soit mis à son crédit. Je voudrais quand même corriger un tout petit peu l'analyse du en même temps macronien sur justice police. Mm-hmm. D'abord, Madame Belloubet a été, avant même Dupond-Moretti, la fidèle suivante de la politique
Nous
de Madame
d'accord.
Taubira en matière de détestation.
C'est vrai que ça date pas d'hier.
En matière de détestation carcérale. Mm-hmm. Et certes, Monsieur Dupond-Moretti à la même philosophie, sauf que lui, le malheur, c'est qu'il est détesté par les syndicats de magistrats parce qu'ils se souviennent qu'il avait osé contester leur vision des choses. Ce que moi, je mets à son crédit.
Ah, c'est pas un maniaque de l'ensauvagement et de l'enfermement.
Je rappelle quand même que il n'y a pas eu d'en même temps macronien en matière de sécurité lorsqu'on avait Madame Belloubet d'un côté et Monsieur Castaner de l'autre, qui ne s'est pas spécialement illustré. Là, on a mis Monsieur Darmanin, que je considère pour ma part comme un bon ministre.
Je parle pas des hommes, comme je parle un de bon la politique.
Comme un bon, je considère comme un bon ministre de l'Intérieur,
oui,
et qui fait en plus, je pense, son job avec sincérité.
On est d'accord.
Mais c'est drôlement tard.
Il est trop tard.
Parfois, prend des tournures surprenantes. Donc, vous avez des mauvais résultats. Des mauvais résultats tangibles, mais comme ce sont des
estimés
hommes de droite...
Estimés comme tels par les Français.
Mais comme ces hommes de droite sont des bons ministres.
Mais,
bon, c'est une tautologie, bah, j'avais pas fait, mais il fallait la faire.
Mais pardon de ne pas mettre au passif de M. Darmanin la politique de M. Castaner.
Non, allez, mais quand même, il appartient à la même majorité. Sur la sécurité,
sur la sécurité, le diptyque police-justice, effectivement, on voit bien qu'avec un peu de retard, il y a une prise de conscience collective, que justement, ils avaient peut-être un peu... pas mis ce sujet-là sur la table quand il fallait. N'empêche que maintenant, bon voilà, on y travaille. Et le plus gros défaut dans l'histoire, effectivement, c'est sur la justice. Elle n'a pas les moyens de travailler.
Et mais ça, on le voit tout le temps. Dans les chiffres et dans la politique de sécurité, par la pandémie,
comme le Covid
a ralenti, ils ont délaissé cette question-là. Et ils le payent maintenant.
On pourra mettre tout le bleu, j'allais dire, dans la rue. Encore une fois, on va avoir. À un moment donné, on va bloquer. C'est dans le traitement des procédures. Parce qu'on forcément, on va mettre plus de policiers dans la rue qui vont faire plus d'interpellations. Le nerf de la guerre, ça va être pour traiter les procédures, les faire remonter. On voit que la procédure pénale est de plus en plus compliquée. Ouais. Et après, il faut une réponse pénale. Et pour une réponse pénale, il faut une politique pénale vraiment qui soit au niveau et qui soit vraiment ciblée sur une quarantaine d'infractions, par exemple, qui emmerdent le monde, c'est le cas de dire, qui emmerdent les gens au quotidien. Et c'est sur ces 40, sujets-là qu'il faut mettre le paquet. Voilà.
Et c'est parce que fait M. Dupond-Moretti qui invente, ce qui est utile sûrement, les cold cases, c'est-à-dire les affaires dont personne n'a trouvé la solution.
Mais c'est important aussi de les traiter.
C'est
aussi important.
C'est bien de le faire.
Merci à tous les cas d'avoir participé à ce Punchline. Le temps passe tellement vite en votre compagnie dans Punchline sur CNews et Europe 1. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, évidemment. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews pour Face à l'info. Et moi, je vous retrouve tout de suite sur Europe 1. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, le débat de Punchline avec comme invité Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste français. Mais tout de suite, c'est le journal avec Hélène Zellani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Le président des villes face aux difficultés du monde rural, Emmanuel Macron face à de jeunes lycéens dans la Creuse. Reportage dans un instant.
Le pass vaccinal désormais obligatoire, nous verrons comment ça se passe dans les restaurants. Le numéro 1 mondial des EHPAD et des cliniques Orpea dans le collimateur. Un livre enquête coup de poing raconte le business avant tout et fait dégringoler le titre en bourse. Et puis le tennis, Alizé Cornet pour la première fois en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem.
La tendance météo avec Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. Le soleil brillera sur une grande partie du pays demain, sauf dans le nord et le long de la Garonne. Météo complète à la fin du journal. Europe 1.
L'étape du jour pour Emmanuel Macron, c'est dans la Creuse.
Hélène. Oui, président des villes pour certains. Il prenait le pouls des habitants de ces territoires moins bien lotis que d'autres. Jacques Serret, vous le suivez pour Europe 1. Emmanuel Macron a notamment été confronté aux difficultés de jeunes élèves d'un lycée agricole.
Oui, au milieu du gymnase du lycée agricole, Emmanuel Macron écoute.
Beaucoup n'ont pas d'accès, en fait, rien qu'à la Wi-Fi, rien que le réseau en Creuse, c'est compliqué.
Prend des notes alors que les lycéens se passent le micro.
J'habite à 5 km du bus le plus proche de chez moi. Et on se retrouve dans cette problématique où le permis coûte extrêmement cher.
Zone blanche, difficulté d'emploi, problème de mobilité et d'accès aux soins, tout y passe.
D'abord, merci d'avoir parlé aussi franchement.
Et le chef de l'État doit défendre son bilan.
On a mis le paquet sur les jeunes. On a mis aussi le paquet sur à la fois l'éducation, mais l'apprentissage et l'alternance. Et on a aujourd'hui, on est l'un des pays, on est même le pays d'Europe où le très haut débit au niveau de structure qui est le nôtre est le plus développé.
Mais Emmanuel Macron est-il officiellement candidat ? Tom, lycéen, lui pose la question.
Est-ce que vous vous présentez aux élections ? La question...
Moi, en temps voulu, j'annoncerai ma décision. Je vais déjà continuer à me battre jusqu'au bout. Si tout avait été réglé, C'est pas le cas. Donc réponse au prochain épisode.
Pas encore candidat, mais définitivement en campagne.
C'est donc la réponse du jour, en temps voulu. Merci Jacques Sorey. Vous suivez Emmanuel Macron dans la Creuse pour Europe 1 et demain direction la Haute-Vienne pour présenter son bilan des zones blanches.
Et puis Hélène, ce lundi marquait aussi l'entrée en vigueur du pass vaccinal pour les plus de 16 ans.
Et oui, il devient obligatoire pour prendre le train, aller à la piscine et bien entendu pour manger au restaurant. Comment la mesure est-elle appliquée? Comment est-elle perçue aussi bien par les restaurateurs que par leurs clients? Wilfried De Villers s'est rendu dans le quartier de la gare Saint-Lazare à Paris.
Depuis ce matin, au restaurant, dans les cafés, on ne vous demande plus votre passe sanitaire, mais...
Je prends le passe vaccinal, s'il vous plaît.
Tiens, il me l'ordonne en plus.
Merci.
Ce nouveau passe, il ne change pas grand-chose pour le responsable de la brasserie Mollard, Stéphane Malchaud.
Qu'il s'appelle passe vaccinal ou passe sanitaire, ça reste un passe. En soi, le contrôle ne change pas. Il faut toujours scanner un document. On a une petite croix rouge ou on a une petite croix verte. À ce titre, ça ne change rien.
Un geste qui reste le même, c'est vrai, mais la règle a bien changé. Les restaurateurs ont le droit de vérifier l'identité de leurs clients. Mais certains refusent de se prêter au jeu. C'est le cas de Claire Nolot, directrice de la brasserie Garnier.
Moi, j'ai demandé à mon équipe de ne pas le faire et je ne le ferai pas non plus parce que de toute façon, on se sent mal à l'aise de demander et puis la personne peut effectivement un peu s'énerver. Elle va le dire. Pourquoi moi et pas lui, voilà. Donc on ne demandera pas les pièces d'identité. Hein.
Devoir sortir sa carte d'identité, pas de quoi déranger Marine, attablée en terrasse.
C'est vraiment un devoir citoyen que de se faire vacciner, que de se faire tester, etc. Donc moi ça ne me dérange pas, à titre personnel en tout cas, qu'on me demande ma carte d'identité, mon passe vaccinal. Pour moi c'est tout à fait normal.
Les plus impactés par le passe vaccinal, ce sont bien les non-vaccinés qui ne peuvent plus désormais montrer un test négatif pour se rendre au restaurant.
Un reportage de Wilfried De Villers et puis un nouvel allègement en Angleterre. Plus de dépistage obligatoire pour les voyageurs entièrement vaccinés qui arrivent dans le pays. Ce drame cet après-midi en Allemagne, un homme a ouvert le feu dans un amphithéâtre de la plus ancienne université du pays à Heidelberg. Il a tué une jeune femme et a blessé trois autres personnes avant de se suicider. Pas d'explication à son geste pour l'instant.
Tempête dans le monde des maisons de retraite avec la parution annoncée d'un livre à charge contre Orpea, le numéro un mondial du secteur.
Oui, les bonnes feuilles paraissent dans le journal Le Monde. Et ce qu'on retient, Carole Ferry, c'est que dans ces établissements, on fait passer la rentabilité avant l'humain.
Oui, ce sont les économies par exemple sur le personnel avec le recours permanent à des vacataires, le nombre de couches limité à 3 par jour et par résident même quand ils sont malades. Les repas rationnés, selon certains témoignages, et l'auteur en a beaucoup, des témoignages, plus de 200. Une succession de petites économies au détriment du bien-être des personnes âgées, alors que les chambres sont facturées 6 500 € par mois pour le premier prix, jusqu'à 12 000 € pour les plus luxueuses. Le journaliste revient également sur les conditions de la mort de l'écrivaine Françoise Dorin il y a 4 ans, des suites d'une escarre mal soignée, 3 mois après son entrée dans l'établissement. L'apparition des premiers extraits ce matin a entraîné une chute de l'action Orpea. Le groupe a même décidé de suspendre son titre le temps de rédiger sa réponse. Et ce soir, Orpea dénonce des éléments polémiques et agressifs qui montrent une volonté manifeste de nuire. Des accusations mensongères, outrageantes et préjudiciables. Le groupe précise qu'il attend la parution du livre dans son intégralité avant de décider d'éventuelles poursuites.
Un livre qui sort chez Fayard mercredi, Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Comme prévu, grosse répercussion sur le trafic pour la grève des aiguilleurs SNCF en Nouvelle-Aquitaine. 85% des TGV ont été annulés entre Paris et Bordeaux.
Et puis du tennis avec la belle performance d'Alizé Cornet à l'Open d'Australie.
La Française 61e mondiale s'est qualifiée pour les quarts de finale face à la Roumaine Simona Halep. C'est la première fois de sa carrière qu'elle atteint ce stade dans un tournoi du Grand Chelem. Elle illustre à merveille l'adage « Tout vient à point à qui sait attendre » Jean-François Pérez.
Oui, c'est du jamais vu dans l'histoire du tennis contemporain. 63 tournois du Grand Chelem, plus de 16 ans sur le circuit pour en arriver là. Enfin, cela en dit long sur l'endurance et l'obstination de la Niçoise, car il a fallu aller la chercher, cette qualification, face à l'ancienne numéro 1 mondiale, la Roumaine Simona Halep. 2h30 d'une bataille épique sous une forte chaleur et une Alizé Cornet aussi épuisée qu'émue au micro du diffuseur Eurosport.
C'est un peu difficile pour moi avec toute l'émotion qu'il y a là et puis à chaud d'avoir les mots justes, mais tout ce soutien, tout cet amour que j'ai de la France et cette victoire, elle est aussi pour vous, ce quart de finale, il est pour vous.
vous et j'espère que l'aventure n'est pas terminée. Et je vous aime tous et merci.
J'espère que l'aventure n'est pas terminée, dit celle qui avait remporté la Fed Cup en 2019 avec l'équipe de France. Alizé Cornet affrontera jeudi Danielle Collins pour une place dans le dernier carré de cet Open d'Australie. Ce sera son premier match face à l'américaine, 30e joueuse mondiale. Difficile, bien sûr, mais à 32 ans, Cornet n'a plus de temps à perdre pour étoffer son palmarès.
Jean-François Pérez. Et puis allez, les Bleus du hand, ils affrontent le Monténégro ce soir, défaite interdite pour garder un espoir de se qualifier pour les demi-finales de l'Euro. Coup d'envoi à 20h30.
La météo avec vous, Marlène Duret. Marlène, demain la grisaille sera de retour dans le nord.
Absolument, Laurence. Et puis beaucoup de brouillards vont se former aussi cette nuit et demain matin, ils peuvent être givrants par endroits, notamment dans le Grand Est, le centre-Val de Loire, le Val de Saône ou encore dans les vallées du Sud-Ouest jusqu'au Roussillon. Pas mal de grisaille également et cette grisaille va se maintenir en journée du côté de la Bretagne, en Normandie, en Ile-de-France, dans les Pays de la Loire. Une partie du centre, hein, entre Tours, Chartres, Orléans, Blois. On n'oublie pas les Hauts-de-France. Une partie de la Champagne également sous la grisaille. Le nord de la Lorraine et de l'Alsace. En allant dans le sud-ouest aussi, ça va résister. Des plaines du Tarn au sud des Charentes en passant par la vallée de la Garonne. Et partout ailleurs, c'est bien simple. Ce sera du grand beau temps. Les températures maximales. 3 degrés attendus à Metz, Lille et Orléans. 4 à Paris et Strasbourg. Il fera 6 degrés à Agen, 8 à Nantes et Grenoble, 10 à Toulouse, 13 à Biarritz et Marseille et jusqu'à 14 à Toulon.
Merci beaucoup Marlène Duret, merci Hélène Zélani. On se retrouve demain à 19h pour le journal. Dans un instant, c'est Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français à la présidentielle, qui vient nous parler du programme. Il a révélé son programme et ses grandes mesures pour l'emploi et la jeunesse. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Fabien Roussel. Bonsoir Fabien Roussel.
Bonsoir Laurence Ferrari.
Candidat à la présidentielle, vous avez publié aujourd'hui votre programme. On va y revenir. Emploi, jeunesse, il y a beaucoup de choses sur l'éducation, sur la santé, l'écologie. Programme complet. Bruno Jeudy est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir Laurence.
Rédacteur en chef à Paris Match. Évidemment, vous allez nous faire quelques petites questions, quelques incises sur le programme de Fabien Roussel. On va peut-être juste, si vous voulez bien, commencer par cette actualité. Le président Macron qui est en visite dans la Creuse sur le thème de la ruralité. Écoutez juste ce qu'il a répondu à un jeune élève agricole qui l'interrogeait sur sa candidature, sa future candidature.
J'ai une question totalement à part.
Bien sûr.
J'ai 18 ans et enfin, du coup, ça va être ma première élection. Est-ce que vous vous présentez aux élections? La question.
Moi, en temps voulu, j'annoncerai ma décision. Je vais déjà continuer à me battre jusqu'au bout.
Très bien.
Je peux vous le dire. Parce que comme vous l'avez démontré vous-même, on a encore beaucoup de choses à faire.
Donc réponse au prochain épisode.
On se retrouve au prochain épisode.
François Roussel, Fabien Roussel, pardon. Vrai faux suspense?
Oui, c'est un vrai faux suspense.
Vrai mais faux suspense, il sera candidat.
C'est surtout que nous aimerions bien qu'il y ait un vrai débat avec les Français et lui, qu'il puisse débattre avec nous et défendre son bilan. Et si il n'a pas honte de son bilan, s'il n'a pas honte d'avoir aujourd'hui 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté, des services publics exsangues et des industries qui continuent d'être délocalisées, qu'il vienne en débattre. Et moi, j'adorerais pouvoir débattre avec lui de ces questions-là. C'est d'ailleurs une question d'égalité républicaine dans le débat démocratique.
Quand il sera candidat, vous aurez l'occasion de débattre avec lui après.
Ah ben, mais j'espère.
Vous pensez qu'il acceptera les débats?
Mais c'est une vraie question. C'est pour ça que j'insiste un peu lourdement là-dessus. L'égalité dans le débat de l'élection présidentielle, c'est que l'ensemble des candidats, au moins dans la période officielle, à quelques semaines du premier tour, que nous puissions avoir un échange avec les Français.
C'est
échange...
4 mars, Fabien Roussel, c'est-à-dire la fin du dépôt des parrainages et la publication par le Conseil constitutionnel.
Il sera candidat à ce moment-là.
On imagine que Emmanuel Macron, s'il est candidat, n'aura pas de difficulté à avoir ses parrainages. Est-ce que vous les avez?
Je les ai quasi.
Vous êtes à
500 sens. Parce que c'est 500. Il faut dire ça à nos
auditeurs. Mais il y en a 6 ou 700.
Il faut préciser à vos auditeurs que les maires, les élus, nous adressent leurs promesses de parrainage. Et donc, sur le papier, je les ai. Mais c'est eux. Elles, ces maires, ces élus locaux, qui ont la responsabilité d'envoyer au Conseil constitutionnel. Et donc,
vous ne maîtrisez
moi,
pas ça.
Tant que je n'ai pas ces 500 signatures arrivées officiellement au Conseil constitutionnel, je serai toujours dans l'attente qu'ils soient tous là. Donc, c'est pour ça que Jamais je vous dirai je suis tranquille. D'accord. Et serein. Mmh. Et donc je continue de m'adresser à eux, je continue à...
Ben, vous savez que c'est un problème pour beaucoup de candidats. Ben, visiblement, sûr. Pour vous, ça ne l'est plus ou peu.
Ça l'est moins, mais c'est un vrai sujet de pouvoir solliciter ces 500 parrainages, de les avoir. Et pour moi, vraiment, moi j'en ai fait un sujet important parce que être soutenu par des élus, d'abord de sa famille politique, mais aussi... largement, par des maires ruraux, des maires sans étiquette. C'est important parce que ça m'oblige vis-à-vis d'eux. Ça m'oblige aussi...
Donc le plus vous en avez, le mieux vous
mais
vous
portez.
Mais
bien sûr, ça donne de
si
la force.
Si vous en avez 700, 800, c'est bien.
Mais bien sûr, c'est très important. Alors je sais en même temps que les maires parrainent de moins en moins. Sur 35 000 maires aujourd'hui, il y en a 10-12 000, je crois, qui accordent leur parrainage. Donc voilà, c'est un vrai sujet.
Et pas un parrainage pour la France insoumise? Vous maintenez toujours? Vous partagez pas?
Mais c'est de la responsabilité de chaque élu de convaincre, d'avoir un discours convaincant et un discours républicain.
Ce n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon ?
Sinon, je n'ai pas dit ça. Je dis que si des élus ont du mal à avoir ces parrainages, c'est qu'ils ont peut-être un problème, une absence de dialogue sincère avec l'ensemble de ces élus. Et moi, je suis très attaché, je suis député d'une circonscription semi-rurale, je travaille beaucoup avec les élus ruraux, les maires ruraux de toute la France et ceux de ma circonscription, je connais leurs difficultés, et donc on doit pouvoir leur parler et pas avec dogmatisme. Voilà, et donc c'est pour ça que c'est de la responsabilité de chacun, et donc à chacun de créer les moyens, les conditions d'avoir ses parrainages.
Alors votre programme, nationaliser les grandes entreprises stratégiques, il y a beaucoup de choses dans votre programme. Réduire le temps de travail à 32 heures par semaine, rétablir la retraite à 60 ans à taux plein, SMIC à 1 500 nets par mois et des pensions à 1 200 nets minimum, création de 100 000 postes à l'hôpital, 90 000 autres emplois dans l'éducation nationale. Vous voyez grand, vous voyez large? Vous financez comment tout cela ?
Je vois d'abord, et j'aspire, à reconstruire une France heureuse. Vous me dites qu'il y a beaucoup de choses dans mon programme, mais il y a beaucoup de choses de cassées en France. La France est abîmée, fracturée, il y a besoin de la réparer. Et donc, si nous voulons protéger le travail des Français, c'est mon souhait. Si nous voulons défendre le pouvoir d'achat, lutter implacablement contre la vie chère, la hausse des factures qui n'arrête pas d'augmenter, mais pendant ce temps-là, les salaires, les pensions des retraités, elles stagnent, voilà, elles sont gelées. Et je ne parle pas que de ceux qui sont au SMIC, hein, je parle aussi de ceux qui sont au-dessus, les classes moyennes, qui, depuis des années...
Ceux qui passent au travers des mailles de tous les filets.
Ben voilà, ils s'escriment au boulot, et puis ils ont du mal à payer les factures de plus en plus, et puis même avoir des moments de bonheur en famille, avec les enfants, sortir, bien manger, la culture, les loisirs, tout ça. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire pour reprendre le pouvoir sur notre économie. C'est pour moi l'essentiel, c'est ce que je veux mettre dans la campagne. L'argent existe. L'argent est là. Les richesses, nous les produisons.
Non,
je veux tout
là,
simplement...
c'est de l'argent magique. Vous faites 180 propositions dans votre programme les jours heureux. Il n'y a pas beaucoup de propositions de financement de toutes ces propositions. Par exemple, emploi public, plus 500 000. Alors je sais qu'il y a des candidats qui ont perdu parce qu'ils avaient promis la suppression de 500 000, mais vous voulez carrément en créer 500 000. Est-ce bien raisonnable, Fabien Roussel ?
Mais c'est une grosse différence que j'ai avec les autres candidats de la droite, de l'extrême droite, hein, comme ça c'est clair au moins, parce que eux veulent continuer à saigner nos services publics, quand moi je veux les développer et les renforcer. Mais vous lirez dans mon programme...
Vous rapprochez Emmanuel Macron, qui lui veut plus supprimer d'emploi public.
Arrêtez, je pouffe. Il ira expliquer ça au personnel des hôpitaux et de nos écoles et à nos enseignants qui ont encore aujourd'hui bien du mal à être remplacés quand ils sont atteints du Covid. Et puis, vous verrez bien que nos services publics sont toujours sous perfusion. Et c'est bien malheureux. Oui, il y a besoin d'investir dans les services publics et vous verrez dans mon programme les trois dernières parties, les moyens que nous nous donnons pour réparer la France. Eh bien, je veux reprendre le pouvoir sur la finance et sur l'argent. Je vous donne deux chiffres. Les 1 800 milliards d'euros d'argent de la BCE pour l'Union européenne. Ça, c'est la planche à billets. Nous en avons touché 290 milliards d'euros. Où sont-ils allés ? Et puis, il y a ces 1 000 milliards de patrimoine détenu par les 358 000 familles les plus riches de notre pays. 1 000 milliards d'euros de patrimoine taxable, ils sont exonérés d'ISF, ils sont exonérés d'impôts, okay, de plus-value sur les transactions.
Attendez.
Je souhaite que les plus riches payent. Je souhaite que les multinationales payent autant d'impôts que les PME, que les TPE. Je souhaite que tout le monde participe à la reconstruction de la France.
On fait une toute petite pause. On se retrouve avec Fabien Roussel, qui est notre invité ce soir dans Punchline. On continuera à parler de son programme économique. A tout de suite sur Europe 1.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Fabien Roussel qui est là pour défendre son programme et Bruno Jeudy pour l'interroger de Paris Match. On a écouté ce que vous avez dit sur les impôts, vous voulez faire payer les plus riches.
Et les multinationales.
Et les multinationales. Par exemple, Valérie Pécresse propose de supprimer la taxe sur les successions pour 95% des Français. Ça va dans le bon sens ?
Alors, c'est une mesure aussi que je propose. Peut-être pas, comme elle le propose, parce que moi je propose qu'en dessous de 118 000 euros, qui est le montant de l'héritage moyen, il n'y ait plus de droit de succession, quel que soit le descendant. Quel que soit
donc,
le descendant.
Quel que soit et le donc, niveau dans la,
voilà,
dans la
pour cet héritage moyen, que chacun, chaque famille qui a pu acheter une maison et investir dedans, puisse le transmettre quand il n'a pas d'enfant, un cousin, une frangine, bon voilà, que ça, on puisse le faire. Mais en même temps, je voudrais qu'au-dessus de ce patrimoine, il y ait un impôt progressif et que forcément, quand le patrimoine est très élevé, eh ben, que ces personnes puissent être imposées plus lourdement. Mais surtout, il faut faire le nettoyage dans les niches fiscales. Parce que les trusts, hein, les combines à pétrole qui permettent de délocaliser son patrimoine à l'étranger et ne payer zéro impôt dessus, ça c'est terminé. Vous savez, Johnny Hallyday, il est au paradis, mais son patrimoine aussi. Hein, parce que le patrimoine de Johnny Hallyday, il est dans un trust, dirigé donc par des avocats fiscalistes, et qui fait qu'il y a eu toute une histoire sur l'héritage des enfants.
Laissons-le où il est.
C'était un petit peu plus compliqué que ça.
Mais, vous empêche que cette histoire
de trust... Vous n'êtes pas sur la même mesure que Jean-Luc Mélenchon, alors, qui veut tout prendre à partir de 12 millions.
Non. Mais cette histoire de trust, c'est quand même une politique anglo-saxonne qui est arrivée en France et qui fait que des riches français, artistes ou autres, utilisent ce mécanisme pour ne pas payer d'impôts sur les droits de succession. Or, une famille modeste qui veut léguer, quand il y a un décès, eh bien, quelqu'un qui voudrait hériter sans payer d'impôts d'un parent éloigné, aujourd'hui, il paye 50% d'impôts. Ce n'est pas juste. Alors, encore une fois, les plus riches en sont exonérés et les familles modestes doivent payer. Il faut rétablir de la justice, y compris dans l'héritage. Je ne suis pas pour l'impôt confiscatoire, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Je suis, moi, pour rendre l'héritage populaire plus juste. Et donc, je ferai une proposition rapidement, dans les prochaines semaines. Je suis en train de travailler un texte de loi que je déposerai dans les prochains jours à l'Assemblée nationale sur ce sujet.
Alors, vous donniez là un élément différenciant entre votre programme et celui de Jean-Luc Mélenchon. On sait que politiquement, vous n'êtes pas très éloigné, puisque la fois dernière, vous le souteniez, c'est-à-dire en 2017. Le Parti communiste n'a pas présenté de candidat ni en 2012 ni en 2017. J'ai regardé, je me suis plongé dans les deux programmes. Regarde sur le plan économique. C'est quand même pas très loin. Le SMIC, 1500 pour vous, 1400 pour Mélenchon. L'ISF, vous êtes OK tous les deux. Emploi public, vous n'êtes pas très très loin. Même le revenu étudiant, c'est 850 euros pour vous jusqu'à 1000 euros. 1000 euros pour lui. Pension de retraite réévaluée à 1200. Franchement, pourquoi vous ne ralliez pas Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui dans les sondages est bien plus haut que vous? À deux, vous seriez déjà à 13-15 point, ce qui rapprocherait Jean-Luc Mélenchon de la qualification pour le second tour.
Dites-moi, jeudi, vous faites sa campagne, là.
Non, je ne fais pas sa campagne. J'essaie de faire la campagne.
J'ai l'impression d'entendre un militant.
J'essaie d'aider la gauche à sortir de l'ornière où elle se trouve.
Je ne vous savais pas de ce bord-là.
Il y a un point qui vous différencie, c'est sur les retraites. J'ai remarqué que vous n'étiez pas pour. Vous étiez tous les deux pour la retraite à 60 ans, mais vous gardiez les 42 annuités.
Bon, il ne vous a pas échappé que si nous avons des points communs, mais heureusement quand même, parce que.
Beaucoup quand même.
De gauche. On remet en cause le système économique actuel. Et donc, nous avons, pendant ce mandat, tapé sur le même clou ensemble. Et donc, ben oui. Mais en même temps, il ne vous aura pas échappé aussi.
Sur l'écologie, vous n'êtes pas vraiment copains.
Vous avez quand même certaines lignes de fracture, des différences qui existent, mais qui permet de en même temps de faire vivre nos idées et d'avoir ce débat. Bon, sur l'énergie, effectivement, et je l'ai écrit noir sur blanc dans mon programme, nous voulons, nous, un mix énergétique qui s'appuie sur les renouvelables et sur un investissement rapide dans l'énergie nucléaire, car nous en avons besoin. C'est essentiel. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais si on veut faire baisser les factures d'électricité des gens, mais aussi des entreprises, c'est un passage obligatoire. Mais j'ai aussi un autre point important pour moi qui me différencie de lui et des autres à gauche, c'est que moi, je ne défends pas le revenu universel. Je ne défends pas le revenu issu de l'assistance. Je veux défendre le revenu issu du travail. Je suis pour remettre le travail, l'emploi et la formation au cœur de la société française. Garantir à tous nos jeunes l'accès à l'emploi. On va commencer par eux. Mais ensuite, éradiquer le chômage. Faire en sorte
zéro
que
jeune
l'on passe...
au chômage.
Ouais. Faire en sorte que l'on passe d'une France du chômage et du RSA à une frange du travail et d'un bon salaire. Un bon salaire avec des bonnes conditions de travail. Redonner du sens au travail, s'émanciper au travail. Ça doit être possible, mince. Aujourd'hui, regardez, on promet quoi comme avenir à nos jeunes ? D'être auto-entrepreneur ? De vivre d'un coup de pédale avec une caisse Deliveroo dans le dos et mourir à l'âge de 16 ans, comme c'est arrivé à un jeune à l'île Five dans mon département.
Dans un accident.
Percuté par un camion. Enfin, je souhaite que l'on puisse investir dans un pays qui crée des emplois, dans les services publics comme dans le privé. J'espère qu'on va parler du privé, parce que je défends les PME, je défends les artisans, les commerçants, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, leur donner la possibilité.
C'est votre grand truc, ça. Vous n'avez pas les grandes entreprises, vous n'avez que les petites. Mais ça, on la connaît, cette ritournelle. Jean-Luc Mélenchon dit la même chose.
Mais monsieur Jeudy, enfin, vous savez que dans notre pays...
Il faut des grandes entreprises, Fabien Roussel.
Mais il y a 9000 grandes entreprises et il y a 520 000 PME-TPE. 520 000 TPE et PME. Elles ont toutes les misères du monde. Par contre, les 9000 grandes, elles bénéficient de toutes les aides publiques, de tout l'accompagnement de l'État. Elles ont même des avocats fiscalistes pour payer moins d'impôts. Par contre, nos 520 000 TPME et PME, elles se débrouillent. Eh bien, moi, je veux que les gros payent gros et que les petits payent petits, et notamment nos petites entreprises.
On fait une pause, on se retrouve dans un instant avec vous, Fabien Roussel. On va parler pouvoir d'achat. On écoutera Bruno Le Maire, qui ce matin a exclu de faire un petit coup de pouce pour aider les Français à payer leurs factures de carburant. A tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Fabien Roussel, candidat à la présidentielle. On va écouter Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui ce matin a exclu de faire un nouveau petit geste, un petit coup de pouce pour aider les Français à payer leur essence. Écoutez.
Bon, je rappelle que nous avons fait beaucoup de gestes pour protéger les Français contre l'augmentation des prix de l'énergie. Et c'était nécessaire. Est-ce qu'il faut envisager d'autres mesures ? Pourquoi pas ? Il y en a juste une que j'écarte. Je le dis très sincèrement, moi je pense que les meilleures mesures, c'est celles qui aident ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour travailler. Je pense que ce sont les mesures les plus justes. En revanche, je pense que baisser la fiscalité sur les carburants, comme le proposent certains, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. D'abord parce que les Français n'en verront pas la couleur. Vous baissez pour 10 centimes de baisse, ça coûte 5 milliards d'euros et ça fait 5 euros en moins sur le plein. Il suffit que l'essence augmente encore un peu plus derrière pour qu'on n'en voit pas la couleur. Et en deuxième lieu, parce qu'on ne répond pas à un problème structurel par des mesures de court terme. Le problème structurel, c'est l'augmentation de ces prix du pétrole. C'est notre dépendance aux énergies fossiles.
Voilà, pour Bruno Le Maire, qu'est-ce que vous lui répondez, Fabien Roussel ?
Qu'il devrait aller faire le plein plus souvent.
Ils ont fait la prime...
Et il verrait comme moi, quand je vais à ma station-service dans ma ville, quand je passe derrière certaines personnes... Je vois que la personne avant moi, elle a fait un plein de 10 euros. Ouais. Elle a fait un plein de 10, 20 euros, voilà, parce qu'ils ne peuvent pas mettre plus. Et donc, oui, c'est important quand on arrive à faire baisser de 30 centimes le prix du litre d'essence. Je m'excuse. Et donc, les 100 euros.
30 centimes le prix ?
Ouais.
Vous voulez faire baisser ?
Oui, bien sûr.
Et là, vous faites comment ? Parce que là, c'est pas de l'argent magique, là.
Oui, mais quand on arrive à ce point-là, pour des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler et qu'ils sont obligés de faire des pleins de 10 à 20 euros parce qu'ils ne peuvent pas faire plus, qu'est-ce que vous leur répondez ? Vous leur dites que c'est pas possible, comme Bruno Le Maire ? Mais enfin, vous rigolez ou quoi ?
10 centimes de baisse, c'est 5 milliards d'euros.
Aujourd'hui, 10 centimes, c'est 5 milliards d'euros. Quand je dis 30, ça veut dire que ça coûte...
Il y a un chèque énergie.
Donc si vous dites 30, ça...
Ah, vous rigolez ou quoi ? Chèque énergie.
C'est quand même chèque énergie.
Mais les 100 euros
versés à 38 millions de personnes.
Les 100 euros
16 millions
qui ont
d'abord
été...
et 16 ensuite.
Allez-y, monsieur.
Les 100 euros qui ont été distribués, monsieur Jeudy, les 100 euros, mais ils ont déjà été dépensés largement. Quand vous additionnez la hausse du prix de l'essence, de l'électricité et du gaz, la hausse, malgré les blocages pour certains, ceux qui étaient au tarif réglementé, il y a tous les autres qui s'enquillent des hausses de 30 à 40%, c'est des factures qui enflent tous les mois. Donc les 100 euros, ils ont été dépensés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, de salariés, des jeunes, des retraités, quand ils veulent aller voir leurs petits-enfants et compagnie, ils ne peuvent pas. Ils sont coincés. Ils sont assignés à résidence. Quand je propose de baisser l'essence de 30 centimes, je souhaite agir dans deux sens. D'abord, l'État, qui peut baisser les taxes et baisser de 30 centimes l'essence, et de l'autre, pour que ce ne soit pas pris sur l'argent de l'État et donc l'argent des Français. Moi, je souhaite aller taper aussi les compagnies pétrolières comme Total, qui ont versé 16 milliards d'euros en 2 ans de temps de dividendes à leurs actionnaires. Vous trouvez ça normal, vous, que des compagnies comme Total, en pleine pandémie en plus, profitent quelque part de cette situation distribuer 16 milliards d'euros.
Ils reversent aussi de l'argent à leurs salariés, Fabien Roussel.
Mais ils ne sont pas obligés de distribuer 16 milliards d'euros de dividendes.
C'est pas la boîte où les salariés sont les plus malheureux.
Mais ils ne sont pas obligés de distribuer 16 milliards d'euros de dividendes quand aujourd'hui on a besoin de baisser le prix de l'essence. Et d'ailleurs, quand on voit le prix du baril il y a 10 ans et le prix de l'essence aujourd'hui, on voit que ça n'a pas suivi la même courbe. Le prix du baril est aujourd'hui plus bas qu'il y a 10 ans, mais l'essence est plus chère.
Vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle la lutte contre le réchauffement climatique, qui fait aussi que les États, notamment dans la partie européenne, partie occidentale, ont augmenté les taxes aussi, parce qu'ils appliquent les accords qu'ils signent pour certains, les accords de Paris, qui obligent aussi à alourdir le prix de l'essence, parce que les voitures vont être remplacées petit à petit par les voitures électriques. Il y a aussi ça aussi, Fabien Roussel, dans l'augmentation du prix de l'essence et dans les contraintes qui pèsent sur le prix de l'essence.
Là, en l'occurrence, c'est pas il n'y a pas eu de hausse de taxes. L'État, il prélève déjà 60% de taxes sur un litre d'essence. Donc, c'est bien l'État. D'ailleurs, il dit l'État n'a pas les moyens. Bon, enfin, il rigole, Bruno Le Maire. L'État gagne de l'argent en ce moment. Et donc, il en a dépensé avec ce chèque inflation de 100 euros. Mais ça, moi, je dis que c'est one shot, c'est un coup.
Il a dépensé beaucoup.
Ben 3 milliards 8, mais c'est une fois. Et c'est tous les mois que les gens ils voient l'essence augmenter, les factures d'électricité et de gaz augmenter. Donc, il faut baisser les taxes sur l'essence. Et moi, je propose la taxe flottante, c'est-à-dire pour essayer de maintenir un équilibre.
Ça a déjà existé, ça. Laurent Fabius, les années 2000.
Ouais, et donc, ça veut dire que ce n'est pas perpétuel. Et donc, on doit pouvoir maintenir un prix d'essence équilibré. C'est l'État qui doit être garant d'un prix d'essence normal, on va dire, en fonction du prix du baril. Ensuite, investissons aussi pour développer les transports publics, les transports en commun, pour garantir à tous de pouvoir prendre le TER,
pour les faire
métro.
Fonctionner à quoi ? À l'électricité.
Il doit fonctionner à l'électricité. Faisons en sorte,
à
justement,
l'hydrogène, à quoi ?
Quand on veut sortir des énergies fossiles, de l'essence, du pétrole et du charbon, faisons en sorte d'investir dans l'énergie nucléaire et dans...
Combien de centrales on construit ?
6. Je propose la construction de 6 centrales et pas sur des terres nouvelles et d'aller embêter des gens dans une campagne.
Alors ça, c'est ce qui vous différencie de vos camarades candidats de gauche.
Hein. Ah, mais de toute la gauche.
Et des EPR,
je suis le seul. 6 centrales aujourd'hui sur des sites existants. Sur des sites où la place existe pour pouvoir le faire, afin d'augmenter rapidement notre production d'électricité. Mais, et c'est une différence que j'ai aussi avec M. Emmanuel Macron, c'est que moi je souhaite aussi sortir l'électricité du marché et faire en sorte que la France retrouve sa souveraineté dans la fixation des tarifs. Et que comme nous sommes aujourd'hui producteurs d'énergie nucléaire et que ça coûte moins cher que le gaz, le charbon qui en plus sont polluants, eh bien, faisons en sorte de fixer nous-mêmes les tarifs avec un service public de l'électricité réunissant Engie et EDF. La France est déjà actionnaire à 84% d'EDF, donc il n'y a plus grand-chose à faire pour être à 100%. Avec Engie, on a la maîtrise du gaz, on a la maîtrise de la production, de la distribution, et c'est la meilleure garantie pour aider les ménages, mais aussi les entreprises. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui
qui souffrent,
qui se mettent en veille, qui mettent leurs salariés en chômage partiel. C'est qui paye ? C'est l'État qui paye le chômage partiel. Il faut arrêter, c'est vraiment une mauvaise dépense d'argent public. Investissons dans l'énergie nucléaire et ça nous aidera à réindustrialiser la France, à soutenir les entreprises. Encore une fois, vous voyez, monsieur, je dis que je suis pro-entreprise.
Très bien.
Et en même temps, ça soulagera le portefeuille des ménages et de nos retraités.
Avec des énergies renouvelables aussi que vous favorisez
Oui.
Ou c'est tout nucléaire ?
Dans les énergies renouvelables, aujourd'hui, je l'explique dans mon programme, les énergies renouvelables, pour 80%, elles proviennent des barrages hydroélectriques, des barrages hydrauliques, qui font partie des grands investissements qui ont été faits dans les années 60, 70.
Trente glorieuses.
Et bien justement, on a fait les 30 glorieuses. Moi, je voudrais les 30 heureuses. Le peuple était présent pour les faire, ces 30 glorieuses. Les salariés étaient là. Et il y a eu des investissements massifs en France dans notre outil industriel, dans la production d'électricité. Nous devrions avoir cette même politique. d'investissement, de protection de nos outils stratégiques et de faire appel aux Français, au monde du travail pour bâtir cette France. C'est pour ça que je crois dans les 30 heureuses. C'est pour ça que je défends la France des jours heureux.
Les 30 heureuses, les jours heureux, les Français, ils ne voient pas forcément les choses de cet œil-là. Ils sont confrontés, on a parlé du pouvoir d'achat, à des problèmes d'insécurité qui sont extrêmement handicapants dans leur vie de tous les jours. On a eu cette agression, on l'évoquait tout à l'heure, d'un chauffeur de bus en plein Paris, molesté à coups de poing. L'insécurité, comment vous vous attelez à ce problème endémique ?
L'insécurité est un fléau qui pénalise aujourd'hui de nombreuses familles, y compris et souvent des familles issues des quartiers populaires où se concentrent beaucoup de difficultés. J'ai fait le choix, moi, de prendre ce sujet à part entière et de dire que la sécurité, la tranquillité publique est un droit fondamental. Je rencontre d'ailleurs beaucoup d'élus, je pense notamment au maire de Grigny, qui a été élu le meilleur maire du monde et qui, lui-même, se bat pour que son commissariat ait suffisamment de moyens pour pouvoir répondre à cette question de la sécurité. On a besoin d'enquêteurs pour dénouer les trafics. J'ai reçu le syndicat des commissaires de police qui m'ont expliqué combien il manquait d'enquêteurs pour aller déjouer...
Pour l'armement des polices municipales
Mais c'est... C'est pas le sujet, monsieur Jeudy.
Si, parce c'est
que...
un sujet.
Non, parce que quand la droite...
Il n'y a pas assez de policiers, mais les collectivités peuvent aussi y contribuer.
Jeudy, c'est pour ça que j'ai voulu, moi, en tant que candidate de gauche, me réapproprier cette question de la sécurité. Parce que la droite et l'extrême droite sont en train, justement, de la dévoyer en parlant d'armer la police municipale, quand moi, je veux une police nationale, avec 30 000 agents supplémentaires formés, sous statut, et qui dépendent de l'État. La police municipale...
Vous voyez bien, on en a fait 10 000, là, pendant le mandat.
Mais 10 000, quand suffi. Sarkozy en a supprimé 15 000, on voit bien qu'on est... On n'a même pas rattrapé ce qui avait été supprimé par la droite.
Si,
et aujourd'hui, l'extrême droite parle même de privatiser la police municipale. Alors, on va faire quoi ? Privatiser une police municipale armée ? Retrouvons des moyens pour nos sécurités, pour notre politique de sécurité intérieure.
On fait une toute petite pause, on vous retrouve dans un instant, Fabien Roussel, on termine sur votre programme sécurité, et puis on parlera de ce qui se passe à droite, notamment autour d'Éric Zemmour, Marine Le Pen, à droite. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline avec Fabien Roussel, candidat à la présidentielle, avec Bruno Joly de Paris Match. Est-ce que vous êtes inquiet pour la présidentielle, monsieur Roussel, dans le sens où est-ce que vous pensez que la droite extrême, peut faire un score et arriver au second tour ?
Oui, c'est une source d'inquiétude permanente pour moi, parce que quand j'entends les discours horribles, durs, tenus par l'extrême droite, par ces candidats qui se réclament de Pétain, de la collaboration, excusez-moi, mais enfin, c'est ça, c'est préoccupant, extrêmement préoccupant, et c'est bien la raison pour laquelle je souhaite, moi, dans cette campagne, pouvoir porter des valeurs progressistes, humanistes, et m'adresser aux Français qui souffrent, aux classes populaires, aux classes moyennes, pour donner de l'espoir, donner du contenu, leur donner envie de voter et de ne pas s'égarer dans des votes extrêmes.
Voilà,
de ne pas se tromper de colère. Parce qu'en fait, moi, la colère, je la sens. Je la rencontre tellement dans mes déplacements. Elle est là, on peut la toucher du doigt.
Votre problème, c'est que le vote populaire aujourd'hui, il reste quand même très attaché, ancré chez Marine Le Pen. Autant on peut dire qu'Éric Zemmour drague, attire à lui peu de vote populaire, alors que Marine Le Pen, elle fait beaucoup de voix, peut-être même plus de voix que vous, sûrement, mais qu'Éric Zemmour, assurément.
Mais c'est vrai, vous avez raison. En même temps, je voudrais donc du coup surtout parler à ceux qui s'abstiennent parce que ça peut permettre de changer les sondages et les équilibres.
C'est vrai
et
que donc, l'abstention est élevée.
Si demain j'arrive à réussir à percer, je suis pas connu moi dans cette élection, je suis celui qui est le moins connu, j'ai vu là que j'ai 54% des sondés me connaissent pas, alors forcément
Oui, faites une percée assez étonnante, c'est un peu une des surprises de ce début de campagne, vous êtes peu connu, mais alors du coup vous avez fait quelques sorties médiatiques qui vous ont popularisé, vous êtes même devenu le candidat communiste qui aime bien la droite, qui aime bien Bruno Le Maire, qui aime bien certains ministres. Ça vous gêne ou pas, ça ?
Alors,
vous êtes bien à droite, mais un peu moins à gauche.
Il m'aime bien, mais enfin, il est loin de voter pour moi, ça se saurait. Mais disons que ceux-là, ils savent qu'on peut discuter ensemble. et que projet contre projet, nous avons des grandes divergences. J'ai fait un débat avec Valérie Pécresse qui était très important, c'était à la fête de l'UMA, mais on a vraiment des projets divergents, mais on les assume, ces divergences, et on peut en discuter entre nous.
Dans un cadre républicain.
Dans un cadre républicain, mais c'est vraiment projet contre projet. Et j'aimerais vraiment que les Français puissent s'intéresser à ça. Cette élection, elle est très importante pour les 5 ans qui viennent. Et ceux qui ne votent plus peuvent faire la différence. Ceux des quartiers populaires peuvent faire la différence s'ils utilisent leur bulletin de vote, bien sûr, pour exprimer leur préférence à gauche et...
Le problème, c'est que
la France des jours heureux.
Sinon, j'ai regardé ce soir, pour l'instant, votre projet.
Alors, vous avez un sondage quotidien.
Voilà, on a un sondage quotidien.
Expliquez-nous où s'en est.
Alors, ce soir, dans ce sondage quotidien, vous êtes à 3 points. Ça reste modeste, malgré votre percée médiatique. Vous progressez de 0,5. Vous êtes à égalité avec Christiane Taubira, dont on parle beaucoup, qui pourrait l'emporter dimanche dans la primaire populaire. Mais vous êtes repassé derrière Anne Hidalgo. Tout ça, ça reste quand même, comme on dit dans le Tour de France, à l'arrière du peloton, Fabien Roussel.
Eh oui, et donc il faut...
Et surtout loin de Jean-Luc Mélenchon.
Et il faut surtout que dans les semaines qui viennent, ça bouge, que le débat s'ouvre. Comme je vous l'ai dit, moi je suis pas encore connu de l'ensemble de nos concitoyens. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir ce débat avec le président de la République et parler avec lui du prix du beefsteak, des difficultés de l'hôpital public ou de nos écoles et d'avenir de nos enfants. Mais ça permettra au moins de discuter projet contre projet. Aujourd'hui, la majorité des Français, une grande partie des Français n'ont pas fait leur choix. Vous le savez.
Et ils le feront au dernier moment.
Ils le feront au dernier moment. Certains parmi eux votent un coup à droite, un coup à gauche. Faut pas voir les Français comme tous des militants enfermés dans un vote. Et donc, je souhaite, moi, leur parler à tous. C'est la différence que j'ai avec ceux de la primaire populaire, notamment, qui sont, pour une grande partie, des gens convaincus de leur vote à gauche et qui veulent un candidat commun sur un programme qui est différent du mien. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne m'ont pas sélectionné. Mais moi, je voudrais aller au-delà de cela.
C'est un peu sectaire, non ? Elle n'est pas un peu sectaire, cette primaire populaire ?
Un peu, parce que justement, ils sont entre eux, mais vous savez, ce sont des militants à gauche qui ont fait
c'est
un...
C'est quoi ? C'est pas des militants populaires ?
Non,
c'est pas la France populaire qui vote.
Non, je veux pas les caractériser de manière péjorative parce que ils ont un point de vue, ils ont le droit de le défendre.
Un truc de bobo.
Ils ont. Oh, mais vous voyez les mots que vous employez.
J'essaie de comprendre quand même. Pourquoi on exclut le candidat communiste de cette primaire populaire ?
Mais parce que le candidat communiste, il a un projet de transformation de la société qui est différent du leur, qui eux veulent. L'ajuster à la marge. Ils ne veulent pas remettre en cause le pouvoir donné aux banques et à la Banque Centrale Européenne. Ils ne veulent pas investir dans l'énergie nucléaire parce que c'est pas leur choix aujourd'hui énergétique. Ils ne font pas le choix du revenu issu du travail, ils font le choix du revenu universel. On a des différences fondamentales. Mais
ils sont 450 000 à Marseille.
Oui, et moi je voudrais parler aux 45 millions d'électeurs. Donc je souhaite parler à tout le monde. Je ne mets pas d'étiquette sur les Français. Toi, t'es de gauche, je te parle. Toi, t'es de droite, je te parle pas. C'est pas vrai. Enfin, c'est pas comme ça. Moi, je rencontre d'ailleurs beaucoup de gens qui m'ont dit « Tiens, j'ai voté insoumis, je voterai pour toi. » Mais j'en ai aussi rencontré. J'ai voté à droite, mais cette fois-ci, je voterai pour toi. Parce que je leur parle de leurs problèmes, de ce qu'ils vivent. Il y a besoin de sincérité en politique. Ouais, et moi, je veux incarner ça.
La candidature de François Hollande, vous y croyez ?
Ouais. Non, pas du tout. Enfin,
pas du tout.
Après...
Bon, vous aviez voté pour lui quand même
ils sont
en 2012
au second tour, bien sûr. Oui. Et donc, ça sert aussi à ça, une élection avec 2 tours et une diversité de candidats. Il y a plein de candidats. Il y en a 4-5 hein, des candidats à droite. Hein, aujourd'hui, quand on additionne Mme Pécresse, M. Macron, M. Dupont-Aignan, M. Zemmour, Mme Marine Le Pen.
Il a fait mal à la gauche, François Hollande, ou pas ?
Comment ?
Il a fait mal à la gauche, François Hollande, ou pas ?
Je pense que son quinquennat a fait énormément de mal à la gauche. Son quinquennat et ceux qui ont participé à son gouvernement. Je ne donne pas de nom, mais vous savez à qui je pense. En tout cas,
Christiane Taubira.
Ça a fait... Il y avait aussi M. Macron. Il a fait énormément Emmanuel Valls. Il a fait énormément de mal à la gauche parce qu'il y avait des espoirs forts placés dans ce gouvernement. Nous, communistes, dès le début, nous avons fait le choix de ne pas participer à ce gouvernement parce que, comme François Hollande avait affiché qu'il ne remettrait pas en cause les traités européens, qu'il s'inscrirait dans les politiques d'austérité, réduction de nos services publics, etc.
Mais moi, il ne vous l'avait pas proposé, de toute façon.
Il ne nous l'a pas proposé, mais bon...
Vous n'aviez pas voté la confiance, de toute façon.
Non. Et il a fait le choix d'une alliance avec les écologistes. Et donc, le premier gouvernement Hollande, c'était une alliance entre les socialistes et les écologistes. On voit où tout cela nous a menés. Aujourd'hui, une bonne partie de ces électeurs ont été déçus. Regardez d'ailleurs le score qu'il a fait au premier tour et le score que fait la candidate du Parti socialiste aujourd'hui. Et donc, moi, je l'entends, cette déception. Et parmi eux, il y a des électeurs sincères qui ont voté Hollande dès le premier tour, des électeurs de gauche sincères qui sont perdus, paumés. J'en connais tellement dans ma région, en plus, le Nord-Pas-de-Calais, traditionnellement à gauche, qui ont voté socialiste toute leur vie et qui sont déprimés, désespérés. Je veux pouvoir incarner un espoir nouveau à gauche. Je suis nouveau dans cette candidature. Eh bien, je souhaite être le candidat nouveau, sincère, qui apporte de la fraîcheur à la gauche et qui peut susciter un nouvel espoir.
Une dernière question pour nous jeudi, avant la fin de l'émission.
Vous accablez avec le style qu'on vous connaît, François Hollande.
J'étais gentil.
En même temps, pour le candidat du Parti communiste français que vous êtes, la pente est rude, parce que ça fait deux fois qu'il n'y a pas de candidat. La dernière fois, c'était 1,93. Le PC est tombé bien bas. La dernière fois que vous aviez devancé le Parti Socialiste, à l'époque, vous culminiez, alors c'est loin, c'était en 69, vous culminiez à 20%, le Parti Socialiste à 5%. C'est très loin tout ça, le Parti Communiste, c'est plus grand-chose aujourd'hui, Fabien.
Ben ouais, mais du coup, je voudrais rappeler aussi à ceux qui nous écoutent que quand il y avait en France un Parti Communiste qui était plus fort, je pense notamment à Georges Marchais et aux 15% qu'il a fait en 81, eh bien la gauche, elle avait une autre couleur. La gauche, elle avait une force bien plus importante dans le pays pour défendre les salariés, pour défendre le monde du travail, les services publics et les usines. Et donc, c'est aussi ça que j'ai envie de reconstruire. J'ai envie de retrouver une gauche populaire, républicaine, laïque, féministe. Je voudrais retrouver une gauche qui renoue avec ses valeurs et qui défend le peuple. Et il n'y a pas. Il va falloir redonner plus de force à ceux qui la défendent comme moi aujourd'hui. Et donc, c'est ça que je souhaite pouvoir reconstruire aussi. Et ça passe par la candidature que je présente à l'élection présidentielle.
Avec le soutien de certains électeurs et de maires qui vous donnent leur parrainage.
Tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup Fabien Roussel d'avoir participé à ce punchline spécial présidentiel. Merci beaucoup Bruno Jeudi. On suit avec intérêt votre baromètre quotidien d'intention de vote. Là, qui est en tête? Macron, hein, c'est ça?
Alors Macron qui est en léger repli aujourd'hui d'un point quand même, 24,5. Et Marine Le Pen, apparemment pas d'effet sur la cote de Marine Le Pen qui reste 6 points devant Éric Zemmour malgré les ralliements ce week-end de plusieurs lieutenants de la présidente du Rassemblement
Valérie
National.
Pécresse.
Et Valérie Pécresse stable, juste derrière Marine Le Pen.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce punchline.
Merci.
Merci Fabien Roussel d'être venu sur Europe 1. Dans un instant, c'est musique avec Stéphanie Loire. Il y aura les informations de 20h avec Alexandre Lemaire. Bonne soirée sur Europe 1.